Bienvenue dans Courant Libre, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de mettre un peu plus de liberté dans leur vie. Que ce soit avec le voyage ou tout simplement comme style de vie, je vous embarque avec moi pour découvrir des personnalités intéressantes, attachantes, mais surtout inspirantes. Et pour ce 14e épisode, je vous propose de découvrir le parcours de Vincent. Ancien pompier de Paris, il est devenu youtubeur à temps plein en réalisant des reportages. Vous verrez qu'à la base, il n'était pas du tout sportif, mais il a pu quand même devenir vice-champion du monde dans une discipline très répandue parmi les pompiers et que ça lui a ouvert des portes. Nous parlerons de ses choix de vie et de ses voyages qui l'ont éloigné de sa passion des pompiers et qui l'ont mis au plus mal. Mais nous verrons aussi toutes les choses incroyables qu'il a pu mettre en place pour devenir aujourd'hui un des youtubeurs francophones les plus connus dans son domaine. 3 livres, 2 méthodes pour réussir le concours de pompiers et de superbes reportages avec des pompiers à l'autre bout du monde. Bref, un programme chargé. Bonne écoute sur le podcast de Courant Libre. Salut Vincent.
Salut Bastien.
Je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode du podcast. Franchement, je suis pressé de te poser tout un tas de questions. Tu as un parcours qui va en inspirer plus d'un. Et pour ça, déjà, je voulais te remercier déjà dans un premier temps.
Et c'est toi que je dois remercier parce que tu donnes la parole à pas mal de personnes et ça, c'est cool.
Bah écoute, le plaisir est partagé. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ?
Alors moi, je m'appelle Vincent, j'ai 33 ans et mon parcours est un peu, on va dire, chaotique. J'ai été sapeur-pompier de Paris pendant plusieurs années. J'ai tout quitté, un peu sur un coup de tête. J'ai pris un sac à dos, je suis parti à l'aventure, on va dire, avec un billet aller simple, sans rien en fait, juste avec un sac à dos. Et donc du coup, maintenant, je fais des vidéos sur YouTube et je vis de ma chaîne YouTube qui s'appelle Vincent Firelife. Donc c'est en rapport avec les pompiers. Donc maintenant, comment je pourrais me définir, c'est plus comme quelqu'un qui voyage à travers le monde à la visite des pompiers. Voilà, c'est plutôt simple. Donc j'écris aussi des livres. Enfin, j'en ai écrit deux. Un qui raconte un peu mon parcours et un autre pour aider les jeunes qui veulent devenir pompiers de Paris, pour préparer au recrutement. Et je vis entièrement de ça, de YouTube, de mes livres. Et maintenant, je voyage. Voilà. Et maintenant, c'est un peu compliqué de voyager, donc je voyage en France. Donc,
on va en parler, on va en parler de tout ça. Ouais. Moi, je vais revenir vraiment sur la partie, parce que c'est déjà, oui, effectivement, un parcours atypique. Ouais. On va revenir sur le côté pompier. Dans cette première partie, d'où vient cette passion des pompiers ? Est-ce que c'est quelque chose que tu, quand t'étais gamin, tu regardais à la télé ou tu voyais dans la rue, tu te disais « Oh, ça sera ce que je veux faire ». En général, il y a des vocations comme ça. Ou est-ce que c'est arrivé sur le tas ?
Ouais, c'est rigolo parce que quand j'entends des gens qui disent « j'aurais pu rêver d'être pompier, d'être astronaute », ou tu sais, ils placent toujours le mot « pompier » ou « astronaute » ou « archéologue ». Et c'est rigolo parce que moi, j'ai jamais eu cette vocation d'être pompier. Je savais pas trop quoi faire de ma vie, en fait, à vrai dire, quand j'étais plus jeune. Et les métiers un peu d'action m'intéressaient, surtout la police. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était plus visuel. Et j'étais peut-être plus intéressé par ça, mais sans trop être à fond, tu vois. Et un jour, je me suis, j'ai un ami à moi, enfin quelqu'un qui était dans ma classe, c'était en CM2 ou en CM1, qui arrive dans ma classe en, on va dire, en cours de route, parce que lui, je crois qu'il était de la région de l'Auvergne, et puis nous, moi, je suis du Rhône, et il arrivait dans la classe en cours d'année. Donc c'était un peu le petit nouveau qui arrivait dans la classe et lui, il était jeune sapeur-pompier. Jeune sapeur-pompier, c'est une association en fait, si tu veux, comme un club. Et tu peux commencer à 11 ans et après tu fais tes années et à la fin t'as un brevet, le brevet de jeune sapeur-pompier. En fait, ça peut t'aider pour devenir sapeur-pompier volontaire, tu vois. Et moi, je trouvais ça cool et c'était rigolo parce que les gens s'intéressaient beaucoup à lui par rapport à ça. Et moi-même, je m'intéressais à lui par rapport à ça. Je me demandais, c'est quoi ce truc, jeune sapeur-pompier ? C'est-à-dire qu'à 11 ans, on peut mettre un uniforme de pompier et s'entraîner. Et tu sais, il faisait rêver, quoi. Et je me suis dit, je vais le faire. Et donc, du coup, je l'ai fait. J'ai fait le recrutement et je suis devenu jeune sapeur-pompier. Et c'est là que j'ai mis le pied dans un univers qui était fascinant parce que l'univers des pompiers, je pense que les gens ne peuvent pas trop comprendre tant qu'ils n'ont pas mis le pied dans une caserne. Mais quand tu commences à flirter avec cette ambiance, à rentrer dans la caserne, à sentir l'odeur, les gars qui parlent d'intervention, ils sont, tu sais, t'es vite pris dans un, dans une addiction, on va dire. Et après, bah, de 11 ans jusqu'à 16 ans, je suis resté jeune sapeur-pompier. Donc là, je me suis découvert, vraiment découvert, parce qu'on fait du sport, on fait des crosses, on fait pas mal de choses. Là, c'est, bah, quand on n'a pas l'habitude, c'est assez difficile au
T'étais
début, mais
sportif à la base ou pas?
pas du tout,
Bon,
pas
ok,
du tout
c'est
sportif.
important.
Mais les jeunes sapeurs-pompiers, c'est fait pour devenir sportif, donc c'est pas trop un souci. On fait des entraînements une fois par semaine. Enfin, moi, j'en faisais deux fois par semaine parce que on avait vraiment un coach qui nous poussait. C'était un prof d'athlétisme et qui était vraiment poussé sur la clé. Et pareil, ça m'a un peu passionné. Le sport m'a vraiment passionné à travers ça. Et c'est rigolo parce que pour la petite anecdote, j'ai fait pour le recrutement, il faut grimper une corde qui fait 5 mètres. Et bah, ce coach en question, Jean-Pierre, m'avait dit, si vous montez pas la corde, vous serez pas pris. Alors moi, c'est rigolo parce que je savais que j'étais incapable de monter cette corde. On avait le droit d'utiliser les pieds et je ne savais pas faire, tu vois. Donc j'ai dû faire 3 mètres, j'ai glissé, je me suis fait mal aux mains et je pensais que j'aurais jamais été pris. Et finalement, il a quand même dû voir en moi quelqu'un de sportif qui voulait se progresser, en tout cas, qui voulait se relever. Donc ils m'ont quand même recruté. Et du coup, j'ai fait une fixette sur cette foutue corde que j'ai jamais réussi à grimper. Les années ont passé, je me suis entraîné comme un ouf, parce qu'à la fin, dans le brevet des jeunes sapeurs-pompiers, t'as une corde, et je voulais avoir 20 sur 20. J'ai eu 20 sur 20. L'année d'après, je suis devenu vice-recordman du monde au grimpé de corde sur une corde de 15 mètres, qu'ils avaient mis à Lyon-Part-Dieu, dans le centre commercial, ils avaient mis une corde, et j'étais le plus jeune participant, j'avais 17 ans, j'ai réussi à faire deuxième. Il n'y avait que des pompiers professionnels, c'était trop bien. Et après, l'année d'après, je suis devenu champion de France. Donc c'est rigolo, en fait, je suis parti d'un échec. Enfin, que c'est quelque chose que j'ai vraiment pris pour moi comme un échec. Et au final, derrière, bah, j'ai réussi à devenir, à ce moment-là, l'un des meilleurs. Donc c'était cool. Belle
Excellent.
expérience, les JSP.
Donc comme quoi, t'as fait une fixette dessus, mais ça t'a développé, t'as pu progresser d'une façon énorme grâce à cette fixette que tu t'étais
Ouais,
faite.
c'est ça, c'est ça. J'ai dû me sentir blessé et puis j'étais à la ramasse en sport. J'étais vraiment nul. Mais c'est normal, tu vois, j'en faisais pas. Mais après, je suis devenu accro et c'est pareil. Après, je me suis mis à la course à pied. J'ai fait des courses un peu plus longues distances. Et ça, c'est pareil. Tu commences à courir, bah, moi, c'était devenu un peu une addiction. Et après, plus j'en faisais, mieux c'était, quoi. Mieux je me sentais.
Très bien. Et du coup, comment t'en es arrivé à... Alors, tu me dis, tu viens du Rhône à la base. Comment ça s'est passé dans ta tête, tu t'es dit tout de suite, je veux devenir pompier de Paris, ou il y a eu des étapes dans ta progression pour en arriver à devenir pompier de Paris?
Non, bah du coup, c'est une bonne transition parce que quand j'ai fait à la Part-Dieu ce grimpé de corde où je suis arrivé deuxième, donc j'étais pompier volontaire et on était peut-être deux ou trois pompiers volontaires et il y avait 30, 50 pompiers professionnels uniquement du Rhône. Et c'était la première fois qu'ils faisaient une telle ascension en fait d'une corde. Il y avait 10, 15 et 20 mètres. Et moi, c'est aux 15 mètres où j'ai réussi à performer. Et c'est la première fois que ça se faisait dans l'histoire en fait. C'est pour ça qu'on dit vice-record du monde, mais maintenant les records ils sont incroyables, c'est plus les mêmes records. Mais tu vois, j'avais 17 ans, je grimpe cette corde, j'arrive deuxième, donc je me place au niveau du département. Les pompiers me regardent et me disent, mais toi tu vas être un bon pompier quoi, c'est continue comme ça, tu vas tout déchirer, tu vois. Donc moi j'ai 17 ans, j'ai tous ces anciens, on va dire pour moi qui sont anciens, mais ils ont quelques années de plus que moi, hein. Il y en a, ils ont 30, 35 ans, voire même plus. Donc pour moi, tu vois, c'est pas des mentors, mais c'est des waouh, c'est les mecs qui sont pompiers professionnels, tu vois, c'est quelque chose que je veux devenir, que je voulais devenir. Et donc, du coup, ces gens-là me disent que je suis sur la bonne voie. Et là, dans ma tête, je me dis, mais si je suis sur la bonne voie pour être pompier professionnel, pourquoi ne pas faire plus et pourquoi pas tenter les pompiers de Paris, qui est l'élite des sapeurs-pompiers en France, tu vois? Enfin, qui est vue comme une élite, parce que les pompiers de Paris, c'est militaire, c'est beaucoup plus enfin, c'est beaucoup d'interventions, c'est beaucoup plus difficile. On va dire que c'est la grande école des pompiers en France. Ben, je me suis dit, mais pourquoi rentrer directement pompier professionnel et tout de suite, alors je devrais peut-être passer par Paris pour voir autre chose, pour faire quelque chose de fort, de difficile. Et c'est là que j'ai pris cette décision, en fait, de
Ok.
partir à Paris.
Alors du coup, tu arrives à Paris, comment ça se passe? Est-ce que ça a été plus dur que ce que tu imaginais? Je sais pas moi. On dit tout souvent que les places sont chères entre guillemets parce que il faut un certain niveau physique, il y a des examens qui sont beaucoup plus durs qu'ailleurs et comme tu le dis, c'est le haut du panier en France, assimilé militaire, donc il y a toute une discipline, tout ça. Comment toi tu as géré tout ça? Est-ce que tu t'es préparé en amont? Est-ce que tu es arrivé et tu as pris un petit peu dans la face ce qu'on te demandait? Comment tu as géré tout ça?
Bah, disons que les jeunes sapeurs-pompiers et les pompiers volontaires, dans ma tête, une fois que j'avais pris la décision de rentrer à Paris, bah, je me suis entraîné comme un dingue, en fait. Et en plus, vu que je m'entraînais comme un dingue, j'ai eu des résultats donc, dans mes parcours, donc, notamment à la corde. J'ai atteint un certain niveau qui était, on va dire, qui était vraiment bon par rapport à ce que les pompiers de Paris demandaient. Donc, du coup, quand je suis arrivé là-bas, 18 ans, aucun bagage, c'est-à-dire aucun diplôme, parce que bah, j'ai pas eu mon brevet des collèges. Je suis allé en BEP électrotechnique que j'ai pas eu, parce que quand j'ai su que je partais à Paris, j'en avais plus rien à faire de mes études. Hein. C'était fixette sur les pompiers de Paris, et donc du coup je suis rentré sans bagage et j'avais que ça en fait. Donc du coup, ouais, c'était difficile parce que pareil, dans la section, j'étais le plus jeune. Le plus jeune de la section, j'avais 18 ans, le plus vieux devait avoir 25 ans. Donc ça va, ça reste à peu près le même âge, mais je reste le jeune sans avoir vécu autre chose que les pompiers volontaires, si tu veux. Et bah, c'était difficile, bien sûr, parce que c'est une instruction c'est une exigence, hein, c'est beaucoup de sport, beaucoup de manœuvres, beaucoup d'entraînement, tu dois apprendre beaucoup de choses, c'est assez difficile, mais il y a une certaine fierté, tu sais, d'endosser cet uniforme de pompier de Paris, et après tu es dans un groupe, tu sais, dans ton instruction, tu es dans un groupe avec tes camarades, on est une trentaine et on est très soudés. Ce qui fait que, ouais, c'était difficile, mais on savait pourquoi c'était difficile. Donc, on ramassait, c'est clair qu'on ramassait, hein. C'était pas facile. Mais on s'est jamais trop plaint, on savait que ça allait être difficile. Tu vois, si les pompiers de Paris, c'est vu comme une élite, bah, c'est pas pour rien, c'est parce que les mecs derrière, ils ramassent, parce que c'est difficile, parce que c'est exigeant, tu vois. Donc, du coup, on va dire que je suis rentré dans le moule. Clairement, je suis rentré dans le moule, parce que c'est un peu ça, hein, c'est l'armée, hein, donc, soit t'es bien cadré et tu rentres dans le moule, soit t'es un peu folichon, t'as les cheveux longs, tu traces pas et là tu te fais un peu défoncer, t'es pas dans le moule. Moi j'étais dans le moule alors c'est plutôt bien passé. Et comme j'avais des bons résultats en sport, j'ai impressionné tout le monde avec ma corde. Imagine les mecs, t'avais les instructeurs qui, alors on va faire séance de corde. Moi je me frottais les mains, je me mettais par terre, là je crachais dans mes mains et puis je montais la corde, les mecs ils me voyaient grimper comme une fusée et ils hallucinaient, tu vois. Donc déjà direct ça calmait un peu tout le monde. Donc la corde m'a aussi aidé, on va dire, à m'intégrer chez les pompiers de Paris, tu vois. Après, j'ai pas un caractère non plus à trop. Je m'adapte facilement, on va dire. On va dire que je m'adapte facilement et donc du coup, tu vois, je l'ouvre pas, tu sais, je suis en retrait, puis j'apprends. J'avais quand même des difficultés, hein, un peu comme tout le monde, parce qu'il faut apprendre beaucoup beaucoup de choses. Mais finalement, les choses se sont plutôt bien passées pour moi, quoi. Notamment grâce au sport.
D'accord. Et t'as exercé pendant combien de temps en tant que pompier de Paris? De 18 ans jusqu'à quel âge?
Voilà, c'est des contrats à Paris, c'est des contrats, on peut dire en CDD, hein, c'est des contrats
D'accord.
de l'armée. Donc ça dure, mon contrat, j'ai fait un contrat de 5 ans et je suis parti en 2011, donc j'ai fait 2006-2011. J'étais dans le 13e arrondissement, caserne que je voulais pas au début parce que c'était pas, tu sais, c'est une grosse caserne, c'était un bloc, tu sais, un gros bloc. Et dans ce bloc-là, il y avait une caserne et cette caserne, bah, c'est là où j'étais affecté. La caserne de Masséna, c'était la deuxième compagnie. C'était vraiment une bonne expérience parce que, tu vois, c'est opérationnellement parlant, quand tu es pompier, toi, ce que tu demandes, c'est de faire des interventions. Et quand tu es à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bah, là, tu fais des interventions, tu vois, tu t'envoies de toutes les couleurs, que ce soit en incendie, en accident de voiture. Règlement de compte, tentative de suicide, enfin, tu vois, je peux te faire, bah,
On
j'en ai
t'envoie dans
écrit un
toutes les
livre, hein,
couleurs.
d'ailleurs, mais tu peux vraiment voir beaucoup de choses, et c'est ce que je voulais, tu vois. Et après, bah, tu t'intègres dans ta caserne et ça se passe super bien. À la fin de mon contrat, je suis pas monté en grade, je suis resté sapeur de première classe. À la fin de mon contrat, j'ai décidé de partir. Donc ça a choqué tout le monde. Mais Vincent, pourquoi tu veux partir? T'es quelqu'un qui, t'es fait pour les pompiers, tu vois. C'est ton truc, les pompiers. Et ouais, bah je veux quand même partir parce qu'en fait, j'avais commencé à faire des vidéos quand j'étais chez les pompiers avec ma petite caméra GoPro. YouTube venait d'arriver. Et je commençais à faire des petites vidéos et je mettais ça sur YouTube. Et puis, je commençais à bien aimer ça. Et dans ma tête, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un site internet et essayer d'en vivre. Tu sais, en 2011, c'était l'époque où il y avait les blogs. Tous les blogueurs émergeaient à ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer dans l'aventure? Et c'est pour ça que j'ai quitté les pompiers. Voilà, tout simplement, avec juste cette petite idée en tête. J'avais un pote avec qui on avait le projet, monter un site. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai quitté les pompiers la première fois, quoi.
Donc c'est ça qui t'a donné le déclic, entre guillemets, c'est l'aventure Internet, entreprendre sur Internet. Est-ce que tu pensais que tu avais fait le tour, entre guillemets, de ton métier de pompier, que tu avais vécu les expériences, les émotions qu'il fallait que tu vives? Et c'est peut-être ça, je sais pas, qui t'a donné le déclic de te dire, bon, à partir de maintenant, je vais pas renouveler un contrat, je vais partir sur une nouvelle expérience, ou c'est autre chose, ou tout simplement
Ouais,
parce que t'étais ailleurs.
je pense que tu as clairement mis le doigt là-haut. En fait, je pense que c'est exactement ça. Je pense que je voulais voir autre chose. Et une carrière de pompier, tu peux jamais te dire j'ai tout vu, tout fait, tu vois. Parce qu'en plus, je suis resté première classe dans la même caserne. Donc, j'ai rien vu, clairement, j'ai rien vu. Sauf que je pense que j'en ai vu assez pour moi. J'avais vu ce que j'étais venu voir, ce que j'étais. Parce que tu vois, j'avais même pas envie de monter en grade. J'étais bien en tant que servante, c'est-à-dire que si tu veux, quand tu pars pour feu, tu as un chef d'équipe, c'est celui qui tient la lance, et moi j'étais derrière le chef d'équipe. Et ce rôle-là, du coup, quand j'avais 5 ans de service, j'avais un chef d'équipe qui était plus jeune que moi, qui avait peut-être 2 ans de service, parce que tu peux monter rapidement en grade. Et tout le temps, le caporal qui était devant à la lance, qui tenait la lance, c'était tout le temps quelqu'un qui était plus jeune en service que moi. Et moi, ça me faisait pas chier. Donc il y en a qui me disaient, les chefs. Ils me disaient, mais ça te fait pas chier d'avoir des chefs plus jeunes que toi. Moi, je leur disais, bah non, parce que j'estime être un bon servant. Donc, tu vois, le chef qui est jeune en service, il va partir au feu. Il va être content d'avoir un mec avec un peu plus d'expérience derrière, tu vois. Ça, c'était ma petite réponse pour leur dire que ça me dérangeait pas du tout, tu vois. Et donc, tu vois, je suis resté à ce niveau-là. Tu vois, j'aurais voulu en voir plus. Je serais monté en grade. J'aurais été muté, j'aurais pu devenir spécialiste. Tu vois, moi, maintenant, du coup, que je voyage à travers le monde et je visite les pompiers, j'en vois des anciens, des pompiers qui ont 30, 40 ans de service. Même eux, ils n'ont pas tout fait, tu vois. Quand tu
Ouais.
discutes avec eux, tu vois, il y a tellement de choses que tu peux faire et à faire. Et c'était peut-être juste cette envie on va dire, de me détacher et de faire quelque chose de différent, je pense,
Et
à ce
toujours
moment-là.
dans l'aspect quand même pompier, puisque est-ce que ce blog-là que tu as créé à l'époque, ou que vous avez créé à l'époque en 2011, est-ce que c'était lié à ton métier de pompier déjà, ou est-ce que c'était
Non.
quelque chose qui avait rien à voir?
Bah, en fait, l'idée, c'était. En fait, le projet ne s'est pas fait finalement, parce que j'ai rencontré une femme à la fin de mon contrat qui est devenue ma copine, avec qui c'était un peu une histoire d'amour assez fusionnelle. Et donc, j'ai laissé tomber tous mes projets. Donc, du coup, le projet de ce site n'a pas émergé. Enfin, on l'avait déjà commencé un peu et tout ça, mais ça s'est vraiment arrêté après. Mais c'était plus un site d'aventure qu'on voulait faire, tu vois. Un site un peu. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était un peu un réseau social de trucs d'aventure.
OK.
C'est bizarre, hein? Et c'est rigolo parce que, en fait, on voyait aussi les gars. Enfin, moi, après, j'ai commencé pendant mon contrat quand j'étais pompier de Paris. Donc, je filmais la caserne de pompiers, mais je savais que c'était pas possible de faire ça parce que t'as pas le droit de filmer en caserne, tu vois. C'est militaire, il y a des règles, il y a un service communication qui s'occupe de ça. Donc, moi, je savais que ça, au bout d'un moment, j'allais pas pouvoir continuer de le faire. Et du coup, je me suis très rapidement dit, tiens, je vais faire des vidéos d'aventure. Et donc, du coup, je suis parti faire le Mont-Blanc avec un collègue. Un pote qui était pompier avec moi, et on est parti faire le Mont Blanc, pareil sur 4 jours, un peu à l'arrache, clairement à l'arrache. On s'y est repris à 3 fois, tu vois, on y est allé 3 fois, et on a réussi en mai, je sais plus quelle année, 2008, je crois, ou 2009. On a réussi à monter jusqu'au sommet, et j'en ai fait une vidéo, tu vois. Et après, je me suis dit, tiens, je vais faire des vidéos d'aventure. Et je pense que à cette époque-là, les vidéos d'aventure n'existaient vraiment pas, tu vois. Les vlogs aventure, ça n'existait pas, tu vois. Et c'est bête parce que j'aurais su, enfin, avec du recul, je me dis, il y avait un filon à prendre à cette époque-là, parce que YouTube n'était pas encore un réseau social. Mais tu le sais pas, toi, tu fais tes vidéos, tu les mets sur YouTube, c'est juste pour les montrer à tes amis, tu vois. C'est même pas, tu vois, il n'y a pas de, y a pas d'optique de ça va se développer et ça va marcher, tu vois. Je vais devenir youtubeur, je savais pas à ce moment-là. Donc c'est rigolo parce qu'après j'ai fait la Diagonale des Fous, pareil en 2011, et je dois être l'un des premiers. La Diagonale des Fous, si tu veux, c'est une course qui fait 170 km sur l'île de la Réunion, et tu dois traverser l'île de la Réunion. Ça s'appelle le Grand Raid de la Réunion. Voilà, son deuxième nom, c'est la Diagonale des Fous, c'est le nom le plus connu. Et c'est une course de malade parce que c'est sur. T'as 65 heures, je crois, pour le faire. Moi, j'ai mis 60. Enfin, j'ai mis une. Je suis arrivé une demi-heure avant la fin de la barrière horaire. Et y a 10 000 mètres de dénivelé positif, tu vois. Donc, c'est dans les montagnes, il faut vraiment traverser l'île, c'est vraiment hardcore.
Je viens de
C'est
croire.
très hardcore. Et donc, du coup, j'en ai fait une vidéo aussi qui doit durer 25 minutes, que j'ai fait pour ma. Pareil, pour partager ça sur ma chaîne YouTube. C'était même pas pour partager à mes abonnés, c'était juste pour le montrer à d'autres gens qui me connaissaient, tu vois, envoyer le lien et leur dire, regarde, j'ai ma Diagonale des Fous. Et en fait, du coup, j'ai un peu laissé, enfin, je me suis un peu dit, et je me suis dit à ce moment-là, je vais faire un réseau social. Et c'est vraiment, parce qu'en fait, après, il y avait les histoires de Facebook, de Twitter, tu sais, tu te dis, ah, je vais faire mon propre réseau social. Il y avait plein de trucs à l'époque qui marchaient bien. De sites internet comme ça, enfin moi ça faisait rêver, tu vois, des pages Facebook qui cartonnent et tout. Et voilà, j'étais parti pour faire ça, un site d'aventure collaboratif, tu vois. Par exemple, à cette époque-là, il y avait Alex Vizéo, je sais pas, enfin tu connais certainement Alex, qui faisait pas mal de voyages, de vidéos de voyage. C'était l'un des premiers, le premier à faire ça. Et on se disait, putain, après on mettra ce mec-là sur notre site, et tu sais, enfin on était parti dans un truc. Voilà, bon, après c'est un projet qui s'est pas allé bien loin
Qui s'est
parce
pas
qu'on n'a
fait du coup.
pas.
Ouais.
Ouais, c'est, bah, je me dis qu'on que je peut-être qu'on n'y croyait pas assez, mais dans un sens, je suis tombé amoureux. Et au final, ça a mis. Enfin, après, ça a tout stoppé, en fait, parce que j'avais des yeux que pour elle, donc mon ex. Et donc, du coup, ouais, voilà, le projet est arrêté.
Comment ils ont
Je suis
réagi tes
resté.
proches quand tu as décidé d'arrêter les pompiers? Parce que j'imagine que c'est surtout à l'époque, il y a quelques années, il n'y avait pas de référence de quelqu'un qui enfin, facilement réussir sur Internet, tu vois. Il y avait bon, le mot influenceur n'existait pas, le mot youtubeur n'existait pas, le mot blogueur existait, mais c'était quelque chose qui était très très niché, tu vois. Comment ça s'est passé dans ton entourage au moment où t'as dit bon en fait je vais pas reconduire ce contrat-là? Est-ce que il y a eu des réactions surprenantes?
Tout le monde a eu peur parce que j'ai resté le petit Vincent qui, là j'avais 23 ans du coup à ce moment-là, mais j'avais pas de diplôme toujours. Hein. Et ce qui fait que j'allais quitter un contrat très sécurité parce que les pompiers de Paris, si tu veux, le salaire de base c'est 1000, enfin moi je touchais 1750, quelque chose comme ça, 1800 à la fin de mon contrat. Donc pour quelqu'un qui a pas de diplôme, c'est un bon salaire, tu vois. Surtout que je peux re-signer, je peux faire carrière, je peux aller jusqu'à la retraite si tu veux. Même si c'est en CDD, il y a quand même de bonnes chances que j'aille jusqu'au bout, tu vois, parce que je correspond vraiment au profil, on va dire. Donc les gens avaient peur, ils me disaient, mais tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi. Mais en fait, c'est bizarre, mais c'est un peu devenu mon moteur. Moi, quand les gens me disent de pas le faire, tu vois, ah, c'est peut-être parce que je devrais le faire, tu vois, c'est bizarre. Mais là, je te dis ça comme ça avec, je sais pas, c'était quand, mais c'était il y a plus de 10 ans. Donc, je te dis ça avec 10 ans de recul, tu vois. Donc, je te dis ça facilement. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas du tout. Mais c'est toujours, je pense, en ayant étudié un peu mon passé, je pense qu'à chaque fois qu'on me dit qu'il ne faut pas le faire ou que c'est risqué, je vais le faire, en fait. Je pense que
C'est
c'est.
comme avec la corde, en fait. Tu te fais une fixette dessus
Voilà.
et tu
C'est
te dis, moi,
ça.
je peux y arriver. Donc, du coup,
C'est
ça te
ça.
devient un leitmotiv, quoi. C'est une
Bah,
motivation
c'est
de dire,
ça.
moi, je vais être capable d'y arriver, quoi.
Je vais essayer et je vais prouver aux autres que c'est possible. Par exemple, quand je te parle de la Diagonale des Fous, on va dire que ça, c'est la dernière course que j'ai faite. Mais avant ça, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait une qui était de 180 km aussi, qui était un peu plus longue. Mais ma première longue course, c'était un 20 km, tu vois, un semi-marathon. Après, on m'a dit, mais t'es fou de faire ça. Allez, 40 km, j'ai fait le marathon de New York. Tu vois, c'était que des trucs comme ça, mais t'es fou, t'es fou. Il y a une course à Lyon qui s'appelle la Saint-Élion, qui relie Saint-Étienne à Lyon en nocturne. Très très connue la course, mais tu vas pas faire ça, t'es trop jeune. Allez, je m'inscris, bim, je la fais. Tu vois ce que je veux dire? Diagonale du fou, c'est pareil. Je suis parti faire le Kilimandjaro, mais vous êtes fou, le Kilimandjaro, c'est l'Afrique, c'est peut-être que ça craint, tu vois, les gens avec leur vision un peu. Alors que ça craint pas du tout. Et bah allez, billet d'avion, on y va et on fait le Kilimandjaro.
Petit
Et en fait,
esprit de
ça a été que comme
contradiction
ça.
quoi, un petit peu petit esprit de contradiction, genre bah tiens moi je vais te faire avoir tort entre
Ouais,
guillemets,
c'est
si
ça,
tu
c'est
penses
ça.
que je suis pas capable, si tu penses que c'est fou de le faire, bah vas-y je le fais.
Ça, et puis un peu le fait aussi, parce que des fois, les gens me disent, mais t'es fou, tu vois. Et moi, j'aimais bien qu'on me dise, t'es fou. T'es fou. Bah, si t'es fou, c'est que t'es pas comme les autres. Donc, allez, on y va et on le fait. Et
Le besoin de
t'es
te
fou.
différencier toujours un petit peu de la masse, entre guillemets, si je reprends un
Ouais,
peu ton
peut-être.
parcours, on le voit depuis le début, puisque pas sportif, tu fais une fixette sur la corde, et au final, tu deviens vice-champion de montée de corde.
Ouais, c'est
Ensuite,
ça.
plus jeune pour les sapeurs-pompiers de Paris, enfin, il y a toujours cet aspect de te challenger, et
Voilà, challenge.
c'est le challenge, je pense, c'est ça qui ressort le plus de ce que tu racontes. C'est très bien. Du coup, mais on va y venir sur la partie YouTube, etc. Et tes voyages, il y a toujours cet esprit de challenge qui te pousse à toujours peut-être aller plus, à faire plus que les autres, aller plus loin. Et du coup, par rapport à cette transition, est-ce que c'est arrivé au même moment cette envie de voyager, ce besoin d'aller découvrir le monde, ou c'est arrivé un peu plus tard?
Bah, disons que l'envie de... Quand j'étais pompier de Paris, on a 9 semaines de vacances. Et donc du coup, pendant ces semaines de vacances, je me disais, je vais faire un défi sportif, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait le Mont Blanc, le Kilimandjaro, je les ai fait pendant mes permissions de pompier de Paris. Je me disais, allez, à chaque fois que je vais avoir des vacances, je vais partir faire une expédition. Je vais essayer d'en faire une par an. Pareil pour le marathon de New York. C'est des trucs que je voulais faire en me disant, si chaque année je fais un peu un truc de fou, si à chaque année je fais un truc de fou, bah derrière je vais avoir une vie géniale, tu vois. Alors qu'on peut faire beaucoup plus que d'un truc de fou par an, mais à ce moment-là, je m'étais fixé ça. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai un peu goûté au voyage, mais sans en être accro. C'était vraiment le défi physique que je recherchais. Tu vois, le défi physique, parce que en France, il y a pas mal de défis, mais moi, je voulais partir à l'étranger et faire un défi à l'étranger. Tu vois, comme ça,
Ouais.
je pense que c'est encore moins accessible. Tu vois, le Kilimandjaro, il est pas en Europe, il est en Afrique, donc il faut y aller. Donc tout le monde n'y va pas, tout le monde n'a pas fait le Kilimandjaro. Tu vois, c'était un peu ça l'idée. Et après, bah après quand j'ai tout quitté, donc du coup, mon projet de site internet, et que je me suis retrouvé avec mon ex, je me suis un peu trouvé dans une comment t'appelles ça? Je dirais la rat race, tu vois. Tu rentres dans une, je suis rentré dans une entreprise et je suis rentré dans un quotidien, on va dire. Métro, boulot, dodo. La rat race, c'est le rat qui court dans son dans son petit jouet là. Et je suis rentré dans ce rythme-là, métro, boulot, dodo, à Paris. Donc je suis devenu parisien en fait, parce que je m'étais installé quand j'étais pompier de Paris. Et donc avec elle, moi j'étais devenu coursier à vélo, si tu veux. Donc pendant 2 ans. Coursier à vélo, parce qu'il fallait gagner un salaire, hein, parce que quand j'ai quitté les pompiers de Paris, bah, j'avais le chômage, mais le chômage, c'est pas éternel. Donc il fallait que je trouve un taf, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas trouver un taf cool? Et c'est là que je me suis mis à faire. Un jour, je courais, et puis je croise un coursier vélo, tu vois, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de Deliveroo, tu sais, Uber Eats. À l'époque, ça n'existait pas. C'était que les coursiers vélo, c'était que des gars qui allaient chercher des courriers importants pour les livrer dans des entreprises, en fait. Des contrats, des chèques. Donc moi, je me suis arrêté, je dis, c'est quoi ton taf? Il me dit, je suis coursier vélo. Et là, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Donc du coup, je me suis présenté dans la plus grosse boîte de coursiers et je suis devenu coursier à vélo pendant 2 ans. Donc pendant cette période, on va dire qu'on n'a pas voyagé, tu vois. Je suis rentré dans cette rat race là, dans ce truc métro, boulot, dodo, assez fatigant parce que coursier vélo, c'est quand même un métier difficile. T'es toute la journée sur ton vélo. C'est un beau métier, hein. C'est vraiment un beau métier que je conseille parce que, pareil, il faut pas de compétences, hein. C'est un métier, t'as juste ton vélo et pour on va dire un taf alimentaire, c'est le meilleur des tafs alimentaires parce que t'as pas de chef, tu es dans ton vélo, tu reçois un coup de fil, va chercher tel pli, va l'envoyer à telle boîte de prod. Toi, c'est très très simple comme travail, mais fatigant parce qu'il faut rouler toute la journée. Le vélo, après, tu as des problèmes, donc il faut le réparer, il faut se débrouiller, tu vois. C'est un peu un métier où tu dois te débrouiller, donc j'ai appris encore beaucoup sur moi. Et là, par contre, on a arrêté tout voyage et on s'est mis à rêver de voyager. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas voyager? On a commencé à voyager, on est parti en Thaïlande, un peu comme
Le
tout le monde fait.
premier
Ouais.
voyage, on va dire, habituel.
Backpacker,
Ouais,
ouais,
voilà,
backpacker, ouais.
exactement, le premier
Sac à dos,
backpack.
on part là-bas. À l'époque, on avait pris c'était quoi, une organisation? C'était UCPA, je ne sais plus comment tu appelles ça, mais ouais, un organisme, parce qu'on avait peur de partir tout seul, donc on était parti avec eux. On n'était pas. C'était bien la Thaïlande, mais c'était pas la bonne expérience parce qu'on n'était jamais tout seul, tu vois, on était toujours avec un groupe et ça ne nous avait pas plu. Mais au
C'est un voyage
moins, on a.
organisé, quoi.
Voilà, un voyage organisé, c'est ça. Mais au moins, ça nous avait fait sauter ce blocage de. C'est pas. En fait, une fois sur place, on s'est rendu compte que c'était pas compliqué. de voyager. Donc après, le blocage, il avait sauté. La fois d'après où on y retournait tout seul, sans. Et au final, ça s'est bien passé, tu vois. Donc ça nous a peut-être fait sauter ce blocage au début. Donc, mais après, ouais, on s'est mis un peu à rêver notre vie, tu vois. Si tu veux, on adorait regarder Pékin Express à l'époque. Et Pékin Express, c'était un jeu sur M6 d'aventure. Il fallait traverser des pays. C'était génial, tu vois, avec 1 euro. Et c'est trop bien, tu vois. Nous, on rêvait de ça. Et on s'était dit, on va tout faire pour faire Pékin Express. Donc, tu vois, on rêvait d'aventure, mais d'aventure pas. Comment dire? Pas l'aventure où tu prends ton sac à dos et tu pars vivre ton aventure. On voulait vivre un truc. Je sais pas pourquoi, mais on voulait faire ça, Pékin Express. C'est bizarre, mais je pense que c'est parce que dans notre tête, on se disait que la seule façon d'y arriver sans avoir à dépenser d'argent, bah, c'était de faire Pékin Express. Parce que sinon, si tu pars à l'autre bout du monde tout seul, il faut de l'argent, il faut ou des sponsors, il faut. Tu vois, c'est. On pensait pas que c'était si simple en fait à l'époque. Et on a commencé à faire des castings et on a fait un casting pour un jeu qui c'est une sale histoire parce que le truc il a jamais été fait, ça a jamais été le jeu n'a pas fonctionné assez pour qu'il y ait d'autres saisons si tu veux. Et c'était The Amazing Race, ça s'appelait comme ça.
Vas-y,
C'était
Nice,
un jeu
ok.
américain. Ouais, bah ils l'ont fait en France. C'est un jeu américain et Canal+ avait racheté les droits du jeu pour le faire en France, mais sur D8, sur Direct 8. Qui était devenu C8 ou je sais plus, mais ils avaient racheté la chaîne et ils ont fait ce jeu, ils ont fait une saison. Et on a été pris pour ce jeu. Et c'est rigolo parce que on pensait qu'on allait le faire. Et puis au final, 2, 3 jours avant de partir, on nous appelle, la prod nous dit désolé, on a pris un autre couple à votre place.
Oh
Donc tu
putain.
vois, bam, grosse claque parce que
Ah,
nous, c'est ce qu'on
j'imagine
voulait
la
faire, tu
déception.
vois. Ouais, grosse déception, on a bien pleuré, ouais, c'était dur. Mais bon, après. On apprend toujours, hein. Et après on s'est dit, mais pourquoi on cherche ça, tu vois? C'est nul, tu vois? Pourquoi passer à la télé? Autant se barrer. Donc après, voilà. Après, on s'était mis en tête de voyager tous les deux sans rien demander à personne, si tu veux. Parce que c'est vrai que
De vous
faire des
débrouiller,
castings ou
quoi.
de. Voilà, se débrouiller, tu vois.
Et
Mais.
à quel moment le. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans tes voyages, en fait, c'est à quel moment tu t'es dit, il faut que j'aille rencontrer des pompiers étrangers.
Ah bah ça va être très très tard dans l'histoire.
Ah,
Parce
c'est encore
qu'après,
plus tard.
entre. Ouais, c'est encore bien plus tard. Mais on peut vite aller à ce niveau-là si tu veux.
Non,
Je te
non,
la fais
vas-y,
courte.
raconte, hein,
Comme tu
jusque.
veux. Mais
Ouais.
en gros, si tu veux, on cherchait du coup à se poser un peu sur Paris pour pouvoir gagner de l'argent et ensuite voyager. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a passé tous les deux le concours de sapeur-pompier professionnel. Parce que moi, je voulais redevenir pompier. Du coup.
Donc du coup, tu dois repasser le concours quand c'est comme ça.
En fait, si tu veux, pour rentrer chez les pompiers de Paris, c'est un recrutement. Donc, tu es recruté, tu rentres chez les pompiers de Paris. Si tu veux rentrer pompier professionnel ailleurs en France, c'est
D'accord.
la fonction publique. Tu es fonctionnaire,
Ok,
tu n'es pas
d'accord.
militaire. Et
Très
du
bien.
coup, c'est un concours de la fonction publique qui est difficile à avoir parce que c'est un CDI hein, à la clé. Donc, il y a beaucoup de candidats, beaucoup de pompiers de Paris qui font les concours de province pour pouvoir rentrer chez eux, en fait, parce que beaucoup de pompiers de Paris ne sont pas parisiens, si tu veux.
Ouais, je vois très bien.
Les gens viennent de partout en France, tu vois. Moi, je venais de Lyon pour être pompier de Paris. Et quand j'ai eu le concours de sapeur-pompier professionnel, donc je pouvais devenir pompier professionnel, mon ex n'a pas eu son concours. Alors, je lui ai dit, bah, c'est pas grave, rentre chez les pompiers de Paris. Parce qu'elle, elle voulait aussi goûter un peu au métier de pompier. Et donc, du coup, si tu veux, elle est rentrée chez les pompiers de Paris. Et moi, j'étais jaloux. Je voulais revenir chez les pompiers de Paris. Donc, je suis re-rentré chez les pompiers de Paris. J'ai refait un recrutement et j'ai refait l'instruction. Donc, tu vois, j'avais 27 ans, j'avais dépassé l'âge, mais il m'avait quand même repris, mais à la condition que je refasse tout. Donc, j'ai tout refait. Je suis devenu major de promotion de l'instruction, donc j'ai terminé premier. Et après, c'est là que, on va dire que la descente aux enfers commence parce que bah, pour elle, ça se passait mal, parce que ça lui plaisait pas, typiquement. Hein, c'est l'armée, c'est quand même un milieu difficile. Et cette vie ne lui convenait pas. Et moi, par contre, à l'inverse, j'étais très heureux, tu vois. Je retournais dans mon école, tu vois. Et je me voyais faire carrière. Dans ma tête, je voulais devenir chef. Et j'étais même allé pour devenir caporal, tout ça. J'étais chaud pour monter en grade et faire carrière, tu vois. Ça y est, je m'étais rangé, entre guillemets. Mais elle, ça se passait vraiment mal. Et au bout d'un moment, bah. Je lui ai dit, bah, viens, on se barre. Et je lui ai mis cette petite graine dans la tête de viens, on quitte tout. On se barre et on se barre. Et on prévient personne. Et on claque la porte. Et c'est ce qu'on a fait. Au bout d'un an du fait que je sois parti, Je suis rentré à la brigade des pompiers de Paris pendant un an. Et après, on a tout quitté, on a tout vendu dans l'appartement, on a fermé la porte, on a rendu l'appartement qu'on était en location à Paris. Sac à dos, billet simple pour la Thaïlande, sans prévenir personne. Personne n'était au courant. Même nos parents, personne. C'est un peu le coup de poker, tu sais, que tu fais dans ta vie et que au début tu es fier de le faire, tu te dis ça y est, j'ai pris ma vie en main. Et puis après les années passent et tu te dis finalement c'était une connerie, tu vois, parce que tu peux faire du mal et tu te fais du mal à toi en prévenant personne, tu vois, t'imagines. Je suis parti, mes parents ils ont été au courant peut-être 2 mois après.
Ah oui, effectivement, oui.
Ouais. À peu près, ouais, 2 mois après, et ils ont été au courant parce qu'ils ont reçu une lettre des pompiers.
Parce qu'il y avait eu
Donc,
abandon de poste.
voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tu vois ce que je veux dire, c'est sur le coup,
C'est
ça
une
fait peur,
décision que
tu
tu
vois.
regrettes aujourd'hui ou pas?
C'est compliqué de regretter les choses que tu as faites dans ta vie. Alors, c'est sûr que celle-là, je la regrette parce que c'est pas mon genre
T'aurais fait autrement.
de. Ouais, j'aurais fait autrement. C'est pas mon genre de la mettre à l'envers, entre guillemets, dans une institution que j'aime, tu vois, que j'aime encore et que j'aimerais toute ma vie, parce que c'est quelque chose qui est en moi, en fait. Et donc, du coup, je sais que certaines personnes pensent certainement que j'ai pas aimé, alors que j'ai aimé, et au final, c'était juste ma vie qui a fait que je suis parti à ce moment-là parce que ça allait pas, tu vois. Mais c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport au couple, c'est par rapport à... C'est même pas par rapport aux pompiers, c'est par rapport à l'envie de fuir peut-être, de renaître, de chercher autre chose, tu vois. C'était ça l'idée. Tu vois, j'ai quitté, si tu veux, j'ai quitté ce poste-là alors que j'étais heureux, tu vois, j'étais heureux moi dans mon poste. Mais ce qui me rendait triste, c'était de l'avoir triste. Et quand je lui parlais de voyage et qu'on allait tout quitter, je la voyais revivre. Donc, vas-y, hein, on va le faire, hein, parce que ça te rend heureuse. Donc, c'était
Ah,
un
du
peu
coup,
ça l'idée.
vous l'avez fait et comment ça s'est passé? Du coup, est-ce que toi, t'as fait, enfin, ça s'est bien passé pour toi et pour elle aussi en même temps ou
Bah
il y a
après,
eu.
si tu veux, le voyage, il a duré 2 ans et demi, et
D'accord.
ça a duré 2 ans et demi, donc on était loin de tout ça, on était loin de la France, on n'avait plus d'adresse, tu vois, donc c'est passé, tu vois, enfin, c'est pas non plus un crime qu'on a fait, tu vois, on est juste parti, tu vois, à l'époque de 14-18, je pense qu'on aurait pris cher, tu vois, mais là, on était en 2015, c'est une autre époque, tu vois. Après, on a commencé à voyager. En fait, moi, le voyage, on est parti avec une somme d'argent, tu vois. On est parti avec 10 000 euros, sac à dos, pour deux. Et on a tenu 2 ans et demi avec, tu vois, pour te dire à quel point on a vraiment été fort au niveau du budget. Enfin, surtout elle, parce que moi, j'aurais tout dépensé. Mais avec elle, qui gérait bien les comptes, on a pu tenir longtemps. Et moi,
Principalement
en
du coup
fait,
en Thaïlande?
non, ouais, Thaïlande, l'Asie du Sud-Est, en fait, Thaïlande,
Ok.
Vietnam, Cambodge, Laos. Après, on est parti en Indonésie, Philippines, on est parti en Nouvelle-Zélande faire un VVT, visa vacances-travail, là où on a travaillé un peu. Après, on est parti en Australie, etc., etc., Taïwan. Et moi, si tu veux, pendant ce voyage, moi, j'ai fait une dépression. Je ne me suis pas senti à ma place, si tu veux. Et peut-être, j'ai certainement regretté, toi, tu me demandais si je regrettais mon geste d'être parti des pompiers, mais je pense que je l'ai regretté à ce moment-là. Maintenant, je ne le regrette pas parce que ça m'a construit, on va dire. C'est ce qui fait que je
D'accord.
suis ce que je suis aujourd'hui. Mais je pense que si j'ai fait cette dépression, c'est parce que je regrettais, mais je voulais pas me l'avouer, tu vois. Je pense. Après, c'est compliqué, hein, une dépression, tu sais jamais d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est venu et ça m'a frappé fort parce que j'ai vraiment voulu en finir, en fait, avec ma vie. J'ai failli passer à l'acte, en fait, si tu veux. J'ai vraiment broyé du noir pendant pas mal de mois parce que ma vie, c'était pas ça, c'était pas le voyage, c'était pas ce que je voulais, moi, tu vois. Moi, ce que je voulais, c'était être en uniforme et aider des gens. Et là, on se retrouvait à visiter les endroits les plus beaux de chaque pays. Tu vois, ça ne me plaisait pas. Tu vois, c'était pas mon truc, tu vois. Alors, j'avais conscience qu'on avait une
Tu te
chance
sentais
d'être
pas à ta
là,
place.
à cet endroit. Exactement. J'avais une chance d'être là. Et elle me le disait, mon ex, elle me le reprochait. Elle me disait, mais regarde ce qu'on voit, c'est trop bien. Pourquoi tu es triste? Et ça me rongeait, en fait. Et c'est un peu comme un virus. Et je le sentais, hein, ça m'attrapait, en fait. Et puis un jour, je suis monté sur un building à Taipei, à Taïwan, et j'ai voulu sauter, tu vois, clairement. Je ne l'ai pas fait, heureusement. Je me dis, c'est un peu comme la phrase d'Orelsan, il dit, heureusement que j'ai remis mon suicide à demain. Et ça, c'est ce que j'ai bien fait, c'est d'avoir remis à demain, parce que finalement, j'ai pris conscience que Je pense que ça m'a. C'est un peu quand tu. La dépression, c'est quand tu fais une. Quand tu tombes dans une piscine, tu te noies. Et pour remonter, la seule façon de remonter, c'est toucher le fond. Tu sais, de donner un gros coup de pied pour pouvoir remonter, tu vois. Mais tant que t'as pas touché le fond, tu tomberas toujours, en fait. Enfin, c'est ma vision de la dépression. Je pense que chacun a sa vision. Et le fait que je sois monté sur ce building, c'était là où j'ai touché le fond de la piscine, tu vois. Et après, bah, j'ai mis le petit coup de pied qui m'a fait prendre l'air. Tu sais, après, t'as sorti la tête de l'eau et tu te dis, putain. Bah maintenant, il faut que je sorte de la piscine, tu vois. Je suis redescendu, j'ai pris mes affaires, j'ai écrit une, enfin, j'avais écrit une lettre hein, pour te dire à quel point je voulais vraiment en finir. Hein, sur la lettre, c'est ciao, bye bye, tu vois. Et après, quand je suis redescendu, j'ai pris un sac à dos et je suis parti. Et puis après, on s'est retrouvé parce que moi, je n'avais pas la force d'aller jusqu'à l'aéroport. Il y avait 30 km, 30 ou 35 km. J'en avais fait 15. J'avais faim, j'avais pas d'argent, c'était vraiment un peu compliqué. Donc je lui ai recontacté, elle est venue me chercher en taxi. Et puis après, elle s'est dit, bah, si tu veux, on va faire un dernier voyage, le voyage de la dernière chance. On va partir en Californie, parce qu'elle a toujours rêvé de visiter la Californie. Et on va le faire en vélo, on va le faire en tandem, à deux. On va faire le tour de la Californie en vélo. Et c'est ce qu'on a fait, on est parti là-bas. Et après ça, on retourne en France. Et moi, je me suis dit, quand je retourne en France, bah, je vais retourner voir mes parents et puis on va se séparer, tu vois. C'est comme ça que ça va finir. Et comme ça, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à cette époque-là. Et du coup, on est parti faire le tour de la Californie. Pareil, hein, j'étais toujours un peu en dépression. Des fois, je pleurais sans savoir pourquoi. Et là, j'ai commencé à refaire des vidéos, si tu veux. J'avais déjà repris un peu avant à Taïwan. Mais refaire des vidéos avec les pompiers cette fois-ci. Parce qu'on a dormi dans des casernes de pompiers aux États-Unis. Et là, j'ai retrouvé ma. T'sais, remettre le pied dans une caserne, je me suis ressenti vivant à ce moment-là, tu vois. Et faire des vidéos, partager ça, j'avais pas d'abonnés, hein. Je devais avoir 1000 abonnés à l'époque parce que ma chaîne, j'avais commencé en 2007 et puis les abonnés venaient petit à petit avec les petites vidéos que j'avais faites avant. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec Internet parce que c'est quelque chose que j'avais laissé tomber. Mais maintenant, YouTube s'est bien développé, il y a peut-être moyen de vivre de sa chaîne YouTube, tu vois. Et je me suis mis ça en tête. Et dès qu'on est rentré en France, bah, du coup, on s'est séparés de manière très lâche parce que j'ai coupé les ponts avec elle parce que je me sentais pas à la force. J'étais vraiment pas bien. Je me sentais pas à la force de lui dire c'est fini entre nous, tu vois, même si elle s'en doutait. Et là, j'arrive chez mes parents. J'avais 180 euros, 180 ou 160 euros. Et j'arrive chez mes parents sans rien. J'avais juste l'ordinateur et une petite caméra. Et 180 euros, tu vois, elle m'a donné 180 euros à l'aéroport pour rentrer. Donc j'arrive à Lyon chez mes parents avec ça. Et là, je me suis dit, bon, Vincent, il va falloir tout construire maintenant. C'est le début de ta nouvelle vie. Et c'est là que je suis parti à Lyon acheter un micro, celui que je t'ai montré, là, mon micro Zoom H1, que j'ai toujours, et du coup, qui coûte 100 euros. Du coup, je suis rentré chez mes parents, j'avais mon micro, ma petite caméra et mon ordinateur, et j'avais encore 80 euros. Et je me suis dit, ça y est, là, je vais commencer à faire des vidéos et je vais vivre de ma chaîne YouTube. C'est comme ça qu'est née l'idée de
De
faire
la
cette
chaîne.
chaîne, de la reprendre en fait, parce qu'elle est là depuis longtemps, mais de la reprendre et de me dire, ça y est, je vais faire vraiment du contenu et je vais essayer d'en vivre.
De
Donc j'avais créé un.
professionnaliser vraiment,
Voilà
d'essayer d'en faire
pourquoi
quelque
professionnel.
chose de sérieux, professionnel et d'en vivre en fait.
Exactement. Si tu veux, quand on était à Taïwan, j'avais commencé à créer un programme d'entraînement et dans l'idée de le vendre en fait et de gagner de l'argent comme ça. Et en fait, j'ai vécu grâce à ce programme pendant bien 2 ans. Hein. En fait, dès que j'ai commencé à vraiment faire des vidéos journalières, parce que j'en faisais tous les jours, pendant 2 ans, j'ai fait une vidéo par jour. Et donc du coup, je vendais mon programme et ça se vendait plutôt bien parce que j'avais pas besoin de beaucoup d'argent. Hein. Je m'étais fixé ma somme minimale, il fallait que je gagne 700 euros, tu vois.
Ah oui,
Parce que
d'accord.
quand tu voyages, t'as pas besoin de beaucoup d'argent, tu vois. Et j'ai gardé ce mode de vie et ça fait 5 ans maintenant que j'ai ce mode de vie. C'est rigolo.
Et du coup, c'est l'idée de rencontrer, parce que pour moi, c'est la meilleure idée, enfin, c'est une excellente idée de se dire, tiens, tu voyages, tu as toujours cette passion, en plus, toi, le déclic, tu l'as eu quand tu étais en Californie, tu disais dans une caserne où tu as pu ressentir les trucs et tout. L'idée de rencontrer des pompiers à l'étranger, moi, je trouve c'est une excellente idée. Parce qu'en plus de
Ah
ça
ouais.
te remet le pied dedans, et puis en même temps, tu découvres une culture, peut-être des exercices différents. C'est ça le truc, c'est que toi, en fait, avant de rentrer dans les détails, t'as fait combien de pays, enfin, dans combien de pays t'as rencontré des pompiers?
Dans combien de pays j'ai rencontré des pompiers? Il n'y a pas eu tant que ça, parce que ça fait pas si longtemps que je commence. Et une fois que je suis bien dans un pays, j'y reste.
Ouais.
Parce que le confort, hein, tu connais, hein, quand tu es bien, pourquoi partir? Taïwan, que j'ai vraiment adoré, et les pompiers là-bas m'ont accueilli les bras ouverts, parce qu'ils m'ont fait tout. Ils m'ont tout fait faire. Ils m'ont fait visiter tout, en fait. Et donc, ce qui fait que je pouvais faire beaucoup de vidéos. Je suis resté pas mal de temps là-bas, c'était en 2020, pendant le début de la pandémie, tu sais, Taïwan n'a pas été impacté. Donc j'ai commencé à faire vraiment ça là-bas, si tu veux, une
Ouais, c'est
vraie
récent, du
immersion
coup. Ok.
où je vis avec eux. Avant, je l'ai fait un peu en France, parce que quand j'étais retourné, du coup, que j'ai acheté ce micro, j'avais négocié avec mon ancienne boîte pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir partir, pour pouvoir m'acheter un vélo. Et j'ai voyagé en France, si tu veux, je suis parti de Lyon jusqu'à Metz, où j'ai rencontré les pompiers de Moselle, qui, pareil, ont été super adorables et m'ont fait confiance et m'ont donné l'opportunité de faire des vidéos. Et tu vois, après, je suis reparti à l'étranger. Si tu veux, après, je vivais une partie en France l'été pour pouvoir visiter les pompiers en France. Et après, je partais l'hiver, je partais en Asie, parce que les loyers sont moins chers là-bas.
Et la vie est moins chère, oui.
La vie est moins chère. Et en France, j'étais à Metz et j'ai rencontré un pompier de Marseille. Et je pense que c'est là que ma vie a réellement changé. J'étais à Metz et je vois sur les réseaux sociaux, sur Facebook, un marin pompier de Marseille qui compte faire Paris-Marseille en courant. Incroyable, tu vois, en 18 casernes. C'est-à-dire qu'il va dormir dans 18 casernes. Et je me dis, mais ça, c'est l'opportunité de dingue de pouvoir visiter les pompiers, ce que je veux faire, tu vois. Sauf que j'aurais une excuse, je suis le caméraman du coureur. Donc je lui envoie un message, un mail. Je dis toujours que c'est le mail qui m'a changé un peu la vie parce que je lui demande, est-ce que je peux te suivre, faire les vidéos de ton aventure? Lui, super sympa. Il me dit, bah ouais, ok, viens. Et donc du coup, on est parti dans cette grande aventure. Et lui courait, moi j'étais en vélo, je faisais sa logistique. Et le soir, dès qu'on arrivait dans les casernes, toute la nuit, je faisais le montage de la vidéo de la journée qui sortait le lendemain. Et du coup, les gens pouvaient suivre son aventure, tu vois. C'est rigolo parce que je regarde souvent cette série de vidéos. J'ai encore regardé deux, trois épisodes hier pour te dire. Et après, c'est là que j'ai commencé à rencontrer plein de pompiers en France et de me rendre compte que c'est possible, tu vois. Tout le monde est cool, tu vois, et tous les pompiers. Voilà, c'est sympa. Et puis après, à l'étranger, Taïwan, bah, ça s'est bien passé. Je suis parti en Australie, tu sais, tu as eu les gros feux de forêt l'année dernière. Et du coup, il y a une équipe de pompiers français qui sont partis pour aider la population en coupant des arbres et en les aidant à aller aider les animaux, tout ça, les associations sur place. Et moi, pareil, je les ai suivis pour faire une vidéo par jour de leur aventure. Donc, j'ai rencontré les pompiers australiens à ce moment-là. Tu vois, et après, cette idée de je vais faire ça dans plein de pays. Et finalement, il y a eu la pandémie, je suis rentré en France. Et finalement, la France, elle est ouverte pour que je fasse des vidéos dans les départements. Chose que au début, on me disait non, tu vois, les départements, ils étaient pas, parce qu'ils me connaissaient pas, tu vois, j'étais personne. Maintenant que j'ai une audience un peu plus grande, on va dire que les départements me font confiance et maintenant j'arrive à faire des vidéos en France. Et c'est cool parce que mes abonnés, ce qu'ils veulent voir, c'est les départements français, tu vois.
Est-ce qu'à l'étranger, tu as eu un accueil un peu plus compliqué de la part des pompiers? Je sais pas, parce que tu vois, tu le disais tout à l'heure, les pompiers de Paris, tu peux pas filmer parce que c'est militaire, c'est protocolé, t'as un service dédié à ça. Est-ce qu'à l'étranger, tu as senti une réticence ou enfin déjà la première chose, c'est comment tu les rentres en contact avec eux? Tu dis coucou, je suis un ancien de pompier de Paris, je vais filmer chez vous, comment ça se passe? Comment tu t'y prends et est-ce que tu as eu des refus ou pas?
Alors, à l'étranger, j'ai jamais eu de refus. Pour te dire, hein, même quand on voyageait en Californie, on a dormi dans les casernes là-bas et les gars ont été super sympas. Alors qu'à cette époque, je faisais pas de vidéo, tu vois. Maintenant, j'ai une excuse de frapper à une caserne, frapper à la porte d'une caserne. Je me présente, je suis Vincent, je fais des vidéos sur les pompiers. Je leur montre ma chaîne YouTube. Ah, c'est bien. Ils regardent mes vidéos. Ah, c'est bien. Et ça se passe comme ça. Et à l'étranger, j'ai jamais eu de refus, tu vois. Les mecs, au contraire, ils sont contents, tu vois. J'arrive à Taïwan, il y a un Français, ex-pompier de Paris, qui fait des vidéos et qui a la possibilité de parler de nous en France. Bah c'est super, tu vois. Donc, j'ai jamais eu de refus comme ça, quoi. Après, je pense que je sais m'y prendre. Maintenant, j'ai l'habitude. J'ai eu tellement de refus par le passé que maintenant,
Les
je
refus, tu
suis
les avais en
patient.
France, du coup.
Les refus, je les ai en France, ouais.
Ok.
Je les avais en France, ouais. Bah, quand j'écris à un département en lui disant, voilà, j'aimerais bien faire des vidéos sur votre département, sur les pompiers de votre département, est-ce que c'est OK? Tu sais, chaque département a un service com. Et souvent, le service com me répondait pas ou me disait non, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, si en France je peux pas faire des vidéos, je vais les faire à l'étranger, puisqu'ils veulent, ils peuvent, et ça les dérange pas. Donc c'est comme ça que je me suis dit que le monde était à moi et que la France, j'y reviendrai. Et du coup, je suis à cette partie de l'histoire où maintenant la France accepte que je fasse des vidéos.
C'est souvent
Je pense
ça.
que, ouais, je pense que grâce à la notoriété, peut-être, peut-être qu'aussi les services com ont changé, parce qu'il y a toujours des fois des réticences, mais après, ça évolue, tu vois. Ils savent bien qu'il faut faire des vidéos et des réseaux sociaux, il faut
Puis
les développer.
je pense aussi ce qui joue, c'est aussi le fait qu'à l'étranger, ils ont accepté, tu sais, il y a une espèce de truc, genre, regarde les autres,
Ah,
on
peut-être,
passerait
ouais,
pour des cons à
peut-être.
pas dire oui, alors qu'au début, ils disaient tous non, tu vois, il y a cette
Ouais,
espèce
peut-être.
de si, mais tant mieux pour toi, et c'est très bien. Est-ce que, à l'étranger, ça, c'est une question que je me posais, avec les casernes que t'as pu rencontrer, enfin, les pompiers que t'as pu rencontrer dans tes voyages, est-ce que t'as appris des trucs? Est-ce que t'es arrivé en disant, putain, ils font comme ça, nous, on fait pas comme ça, ou, ils ont des méthodologies qu'on devrait récupérer, parce que tu sais qu'en France, on a un espèce de truc, c'est qu'on pense qu'on fait un peu mieux que tout le monde. Et du coup, est-ce que toi, t'as ressenti qu'il y avait quand même des choses que tu pouvais intégrer et qui serait bien de les intégrer dans les pompiers?
Bah, en fait, il faut savoir que les pompiers en France, on a un super niveau.
C'est pas une légende.
C'est pas une légende, on a quand même un super niveau. Tu sais, c'est comme souvent les produits, on dit que les produits allemands, c'est de la bonne qualité. Ben, c'est pareil pour les pompiers en France. Si tu veux, les pompiers en France, ils font avec pas grand-chose. Enfin, tu as des départements qui n'ont pas beaucoup de budget, et malgré le fait qu'ils n'ont pas de budget, ils arrivent à avoir des techniques que même les départements avec plus de budget ne font pas, tu vois, parce qu'ils se débrouillent, tu vois. Et en France, on a un peu ça, à se débrouiller. On est bon en France. Après, tu vois, les États-Unis, c'est le top du top parce que c'est pareil, les budgets ne sont pas les mêmes, le matos, il est performant, c'est des trucs, ça fonctionne, c'est des trucs de fou. Taïwan, c'est pareil, hein, ils ont du super matos, mais le matériel, si tu veux, c'est à peu près le même partout dans le monde, tu vois. C'est juste, il y a des petites différences, mais voilà, un feu, ça reste un feu. Les dangers, c'est les mêmes dangers, que ce soit en Asie, ou en France, tu vois. Après, il y a des techniques qui sont différentes. Après, moi, je suis pas là pour dire, tiens, je vais prendre cette technique et je vais la ramener en France. Je suis pas un
Non, non,
technicien
mais
assez.
pas forcément ça, mais te dire, tiens, ça serait bien que nous, on fasse peut-être comme eux, ou inversement. Est-ce que toi, t'as remarqué que dans certains coins, ils étaient peut-être pas à la ramasse, parce que ça serait péjoratif de dire ça, mais peut-être pas équipés, ou pas la bonne méthodologie, ou une méthodologie
Je
qui peut
pense
les desservir?
que les pays que je fais, c'est des pays qui sont assez développés.
Ouais,
Donc,
voilà.
tu vois. L'Australie, les États-Unis, Taïwan, la France, l'Allemagne. J'ai fait pas mal de vidéos pour les pompiers allemands aussi. Et c'est des pays qui sont à peu près le même niveau, on va dire, de compétences ou de niveau de richesse, même si Taïwan est un peu plus pauvre. Mais tu vois, il y a un truc que je rêve de faire et que je vais faire par le futur, ça serait de partir dans des pays plus sous-développés, des pays pauvres, par exemple, en Afrique. Tu vois, j'aimerais bien aller au Sénégal. C'est vraiment, j'y suis allé, j'ai déjà vécu un mois au Sénégal. C'était génial, j'ai adoré. J'aimerais bien y retourner là-bas et je pense que ils seraient trop contents de me voir débarquer pour faire des vidéos là-bas. Donc un jour, je le ferai. En plus, c'est français, donc
Ce
ça
sera
sera
plus
sympa
simple au
pour faire des
niveau,
vidéos.
ouais.
Ouais. Et là, je verrai, je pense, la grosse différence où quand ça brûle dans un village et que les pompiers, ils arrivent à trois avec, je sais pas, je connais pas vraiment la situation là-bas, mais je suppose qu'il y a des endroits en Afrique ou même en Asie du Sud-Est où ils arrivent avec peu de moyens. Et c'est là que ça peut être intéressant et aussi de filmer des associations, parce qu'il y a pas mal d'associations, par exemple d'associations françaises, qui vont dans un pays en voie de développement et qui apportent du matériel de pompiers. Et tu vois, il y a plein de choses à faire là-dessus, tu vois. Mais en tout cas, dans les pays avec un bon niveau de vie, on va dire, le matériel est assez quali. Tu vois, à Taïwan, quand ça brûle, les pompiers sont vachement compétents, hein, ils savent faire. Hein. Après, c'est la structure des bâtiments qui est différente par rapport à en France. Donc là, il y a une autre adaptation parce que, tu vois, souvent, ils ont des barreaux aux fenêtres. Tu vois, je ne sais pas si tu vois en Asie, mais en Thaïlande, il y a des barreaux aux fenêtres. Et c'est sûr que quand ça brûle et que tu as quelqu'un dedans, bah,
Ah,
le
c'est
mec,
plus
il peut pas
compliqué.
sauter pas. Il peut pas passer par la fenêtre et les échelles, elles servent à rien, tu vois. Donc c'est une autre façon de faire, mais ils sont bons et puis ils ont du budget, ils ont du matos.
Il y a un pays en particulier qui t'aurait donné envie d'y travailler en tant que pompier?
Ah bah oui, les États-Unis, New
Les
York.
États-Unis, typiquement, ça te... Là, bah, après, c'est l'image, tu vois.
C'est
C'est un
l'image, c'est
cliché, j'ai
ça.
envie de te dire. C'est le stéréotype. Mais quand tu as rencontré des pompiers aux États-Unis, le fait que tu leur dises que tu étais un pompier de Paris, est-ce qu'il y a du coup une réputation quand même qui s'installe? Ils savent quitter, entre guillemets. Ils savent...
Bah en
Tu
fait,
sais,
ouais,
dans l'armée, on sait qu'il y a des classes, les BRV, la Légion étrangère, tout ça. Tu sais, ça a une renommée, tu vois. Est-ce que du coup, dans tous les endroits où tu es allé, le fait de dire français pompier, surtout pompier de Paris, il y a tout de suite un genre, ah oui, là on a affaire quand même à du haut panier.
Ouais, ça va que les pompiers de Paris ont une superbe image internationale. Quand tu dis que t'es pompier de, que t'as été pompier de Paris, les gars, tu vois, ils savent à qui ils parlent. Hein. Ils disent, putain, le mec, il a fait les pompiers de Paris. Mais tu vois, par exemple, à New York, moi, je leur ai dit, j'ai été pompier de Paris. Les mecs, ils en avaient rien à faire. Eux, ils ont fait le 11 septembre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, entre guillemets, eux, ils sont. Si tu veux, les pompiers américains, c'est un peu les pompiers que tout le monde regarde, que tout le monde, c'est tout le monde est fasciné par les pompiers américains, les pompiers de New York, de par l'histoire, de par leur tenue, les engins qui sont énormes. Donc
Ils sont beaux en plus, c'est super bien
ils
entretenu
sont
quoi.
beaux, hein, ils sont beaux, c'est magnifique, c'est magnifique. Les petites casernes, tu vois, les casernes où les engins ils passent, mais tu te demandes comment ils font pour rentrer dans ces petites casernes. Et puis tu sais le style américain, alors que certains pourront ne pas aimer parce qu'ils ont une autre façon de procéder sur intervention, mais ça serait les États-Unis. Après, maintenant que je fais ce que je fais, j'ai plus envie de redevenir pompier nulle part, tu vois, parce que ce que je fais, c'est ce que j'aime, tu vois. Donc si tu me dis demain t'es pompier aux États-Unis, t'es pompier à New York, je te dirais je veux être pompier à New York, mais pour faire des vidéos de pompier à New York. Je veux pas être pompier pour éteindre des feux, tu vois. Maintenant c'est plus ça mon truc, c'est de faire des vidéos, c'est de faire des films. Mais un jour je le ferai, hein. Un jour j'irai à New York, là comme je fais depuis toujours maintenant. Enfin j'ai l'impression de faire ça depuis toujours. J'irai à New York, je m'installerai, puis j'irai frapper à la porte des casernes, et puis on me présentera à la communication, et on verra ce qui va se passer, tu vois. Mais ça va bien se passer parce que pour le moment ça s'est plutôt bien passé.
Et parmi ces diverses, parce que c'est quand même assez récent par rapport à ton aventure d'après pompier, enfin de youtubeur maintenant, j'ai envie de te dire, ces rencontres, est-ce qu'il y en a une particulière? Est-ce qu'il y a un endroit particulier qui te reste en tête? Est-ce que ça serait Taïwan? Est-ce que c'est l'Australie au moment où c'était chaud? C'est le cas de le dire. Est-ce que c'était à New York? Est-ce qu'il y a un endroit, un moment, une anecdote, un truc où tu te dis, tiens là, franchement, j'ai vécu un truc de fou. C'était quoi le meilleur moment?
Bah en fait, dans chaque pays, tu vois, même en France, hein, dans chaque pays, dans chaque caserne, je vais vivre un bon moment. Aux États-Unis, je me rappelle, tu vois, en Californie, j'étais un mec qui nous avait reçus et il était adorable avec nous. Il nous a fait dormir chez lui. On a dormi dans la caserne, on est parti sur intervention avec lui, tu vois. Donc déjà, c'était complètement ouf. Et après, on est parti chez lui, il nous a accueillis chez lui, il nous a montré sa famille, il nous a montré ses armes. Pour te dire des armes lourdes, il nous a montré toutes ses balles, il était fier, et il avait plusieurs voitures, grosse baraque, tu sais, à l'américaine, quoi.
Le
Mais parce que
stéréotype.
là-bas, ouais, mais là-bas, tu sais, les salaires, c'est le mec, il touchait, il était juste sapeur de, enfin, il était juste conducteur chez les pompiers, il touchait 9 000 $, tu vois. C'est pas les mêmes salaires qu'en France, si tu veux, parce que c'est la Californie, donc il dépense beaucoup d'argent, c'est cher, et donc, du coup, on va dire, les infirmières, les pompiers touchent de l'argent, tu vois. Et donc, en l'occurrence, lui, il en touchait pas mal. Et puis, tu vois, donc lui, il m'a marqué. Après, en Australie, j'ai un autre pompier qui m'a marqué. Il s'appelle Jamie. C'est un pompier qui a vécu le feu, tu vois, en plein milieu du village, tout a brûlé autour. Et lui, il était dans le brasier, si tu veux. Et lui, il te parle, tu vois, enfin, il te parle comme si, enfin, c'était son job, quoi, tu vois, en toute modestie. Tu vois, à Taïwan, les pompiers là-bas ont été tellement adorables avec moi que j'ai plein de visages qui me viennent en tête. Hein. C'est des gens qui m'ont tout donné. Hein. Là-bas, ils m'ont clairement tout donné, hein, parce que j'ai dormi en caserne pendant plusieurs mois, tu vois. Et puis, à chaque fois, ils m'emmenaient visiter des choses et faire des choses. Et puis, ils me mettaient en tenue de feu, ils me faisaient rentrer dans le feu, tu vois. Enfin, des trucs improbables et trop bien. Parce que moi, ça me faisait du contenu pour ma chaîne. En France, j'ai rencontré pas mal de monde aussi, et notamment les pilotes de Tracker. Ça, c'est les pilotes, tu sais, t'as les pilotes de Canadair. Quand il y a des feux de forêt, les Canadair, ils éteignent le feu avec les avions, si tu veux. Et t'as un autre avion, mais maintenant qui n'existe plus. Donc, j'ai eu la chance de faire des reportages sur le Tracker. Donc, c'est, on va dire, un plus petit avion pour éteindre les feux de forêt. J'ai visité les pilotes après un crash. Il y a eu un crash, je sais plus, c'était en 2018. 2018 ou 2019, un crash, et le pilote est décédé, Franck Chesneau, et j'ai fait une vidéo hommage Franck. Et ça a touché la famille, ça a touché les pilotes. Et ils m'ont contacté. Et du coup, j'ai pu visiter à Nîmes la base de la sécurité civile. Et là, c'était des personnes incroyables. Mais vraiment incroyable, parce que c'était des anciens pilotes de chasse. Puis pour piloter un tracker, c'était des. Tu sais, ils appellent ça la Jeep du ciel, tu vois. C'est
Ah
des
oui,
petits
c'est
coucous.
rustique et tout.
Et ouais, c'est rustique et tout. Et c'est pour ça que ça a été réformé, parce que, parce qu'il y avait des accidents, tu vois. Mais les pilotes, en tout cas, pour eux, c'était une valeur sûre, tu vois. Enfin, c'était une valeur sûre. C'est juste qu'au bout d'un moment, il fallait renouveler la flotte, et puis ils ont préféré prendre des avions plus grands. Et ouais. C'est une longue histoire, mais. Et là, j'ai rencontré Philippe, le chef, qui m'a accueilli comme si j'étais un membre de sa famille, tu vois. Et en fait, c'est ce qui revient souvent avec les pompiers, c'est que j'ai l'impression d'être un membre de. Pas un membre de la caserne, mais un membre de la famille, tu vois. Quand on me prend bien en main, je me sens comme ça. Et en France, tu vois, j'étais dans la Nièvre, un petit département à Nevers. J'ai fait une immersion de plusieurs semaines aussi dans la caserne, et les pompiers, ils ont été adorables avec moi, tu vois. Et là, je viens d'arriver à Marseille, et pareil, je suis arrivé il y a quelques jours. Donc, je connais pas encore comment ça se passe ici. C'est pareil, c'est l'armée hein, ici à Marseille, hein, c'est le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Mais j'ai rencontré les services communication qui m'ont reçu dans leur bureau. Et pareil, je suis venu, et je me suis dit, on verra, on va tenter. Donc, pour te dire, c'est tout récent, et les mecs, ils m'ont accueilli dans leur bureau, et ils m'ont dit, bah, on va faire des vidéos avec toi. Tu vas faire des vidéos avec nous, tu vois.
Super.
Et bon, je promets rien parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un chef qui dise non, tu vois, ça peut arriver. Mais en tout cas, le service com est plutôt chaud, tu
C'est
vois.
en bonne voie. Mais en tout cas, ce que je vois et ce qui est intéressant dans ton histoire et ton parcours, c'est que le centre, le point névralgique de tout, en fait, c'est les pompiers. Parce que même au moment où tu ne veux plus être pompier, ce qui te permet de générer des revenus, c'est ta méthode, en
C'est
fait. Tu
ça.
vas m'en parler, mais en gros, aujourd'hui, ce qui te permet de gagner ta vie et d'avoir de la visibilité, c'est les pompiers. C'est en fait, il y a toujours ce rapport et a priori, c'est ce qui te permet d'être mieux dans ta vie par rapport au moment où tu as été au plus bas. C'est de te rapprocher de ce point névralgique qui est le métier de pompier,
Ouais, c'est ça.
de façon indirecte. Mais au moins il est toujours présent comme un phare, tu vois, au milieu du truc. Ça, c'est ta ligne de mire parce que tu permets aujourd'hui, on va en parler, t'as créé une méthode, c'est la méthode Guillard si je le prononce
Guyard,
bien.
c'est ça. Non, tu prononces mal, mais c'est ça.
C'est quoi le nom? Vas-y, dis.
C'est méthode Guyard.
Guillard,
Guyard.
excuse-moi. C'est quoi?
Ouais,
Et au
c'est
moment de le
compliqué.
dire, je me suis dit, je vais me faire allumer. C'est soit l'un, soit
Non, mais c'est pas grave.
l'autre. Donc du coup,
D'accord.
la méthode Guillard, pardon, donc qui permet en fait, du coup, c'est quoi? Vas-y, explique-nous parce que moi, je le
En
sais,
fait,
mais vas-y, explique.
si tu veux, c'est un programme que j'ai créé quand j'étais à Taïwan, donc quand j'étais au plus bas. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de gagner de l'argent comme ça, en fait. Et j'ai créé ce programme qui dure 6 mois. C'est 5 entraînements par semaine. Il y a une séance de natation, 3 séances de cross-training et une séance de course à pied. Et c'est un programme que j'ai fait, on va dire, en vidéo. Donc les élèves reçoivent leur mail, reçoivent par mail la vidéo dans l'espace membre. Et puis après. C'est évolutif, tu vois, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, et les niveaux c'est des grades en fait, si tu veux. T'as le niveau
D'accord.
sapeur, première classe, caporal, caporal chef, jusqu'à colonel, c'est rigolo. Et donc c'est la méthode Guerre qui est une méthode assez difficile, que j'ai voulu qu'elle soit difficile, parce que le métier de pompier, tu vois, c'est un métier qui est exigeant, et moi ce que je voulais c'était que les gars ils puissent faire des bonnes séances pour qu'ils aient un bon niveau, et l'idée de ce programme c'est de les aider à avoir une bonne condition physique pour être pompier, tu vois. Donc j'ai créé ça. Et après, maintenant, si tu veux que le temps passe, bah, j'ai créé d'autres produits. J'ai créé un petit programme pour le recrutement des pompiers de Paris. J'ai créé un livre pour les pompiers de Paris, pour le recrutement des pompiers de Paris, où là, je partage mon expérience et comment ça s'est passé pour moi, avec l'expérience de mes élèves. Donc la valeur, je la porte surtout sur l'expérience de mes élèves qui le font là, le recrutement, qui m'ont, entre guillemets, qui m'ont dit comment ça s'est passé. Parce que ça évolue. Bon, du coup, je mets à jour mon programme comme ça, grâce à eux. J'écris le livre qui raconte mon histoire, qui s'appelle L'incendie de ma vie. Là aussi, c'est un livre qui retrace tout mon parcours de mes 11 ans jusqu'à aujourd'hui. Je
C'est
sais
un
plus
livre que tu
combien
as
de
sorti
pages
il y a
ça.
combien de temps?
Ça fait un an, là. Un an, c'était en septembre 2019. Ouais.
En tout cas, moi, j'invite vraiment les personnes qui, les auditeurs ou auditrices qui sont intéressés par ton histoire d'aller vraiment jeter un coup d'œil à, même à tes méthodes ou quoi, parce que tu partages, et ça, c'est très intéressant sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, tu partages des commentaires, des messages privés qu'on t'envoie, beaucoup de retours positifs de ce que tu peux apporter.
Bah, c'est ce que je veux, ouais. C'est ce que, en fait, moi, ce que j'aime dans les réseaux sociaux, c'est de partager des choses qui me font plaisir. Et quand on m'envoie des messages comme quoi, ça, tu sais, des jeunes qui disent ouais merci ton parcours m'aide, bah ça me fait plaisir, je me dis c'est cool parce que moi je fais rien, enfin, j'ai l'impression de rien faire si tu veux, j'ai plus l'impression de galérer qu'autre chose, et quand on en parle comme ça j'ai l'impression d'avoir une vie waouh, mais c'était beaucoup de moments de galère finalement. Et si tu veux, tu vois, j'arrive, là, rien que là, il y a quelques jours, j'arrive à Marseille, je connaissais mon pote Lionel avec qui j'ai traversé le pays, mais sinon je connaissais personne, tu vois. J'arrive ici, je prends Airbnb, je connais pas la ville, tu sais, comme tu le fais quand tu pars tout seul à l'étranger, bah, c'est un peu pareil en France, tu arrives là, tu connais personne, et tu poses tes bagages, et après, bah, après tu dis que tu es à Marseille, il y a des gens, des pompiers de Marseille qui disent tiens, et tout. Et puis après, je suis invité pour la communication. J'y vais, je rentre à l'état-major, je suis accueilli et ça se passe bien. Et peut-être que d'ici quelques mois, tu vois, j'ai même prévu de rester quelques mois à Marseille. Tu vois, je me dis, on va essayer de faire des vidéos ici. Donc, et après, moi, si je partage ça, c'est parce que il y a des gens qui me disent que ça leur fait du bien. Donc, je me dis, bah, autant le faire, tu vois. Puis
Non, mais
j'aime
t'as
bien
raison. Puis
parler,
en
donc.
plus de ça, en fait, là, on se rend pas compte et t'as raison d'appuyer dessus. C'est du travail. Tu parlais tout à l'heure de faire une vidéo par jour. Je sais pas si on peut se rendre compte, mais une vidéo par jour, ça demande une discipline incroyable parce que
Ah,
il y
j'en
a
ai chié,
temps
ouais,
de,
c'est clair.
le temps de réaliser. Il y a le temps de montage qui prend deux fois ou trois fois plus de temps parfois que la vidéo elle-même. Et du coup, oui, c'est une rigueur incroyable. Et ça, c'est très bien. Et aujourd'hui, tu en profites, entre guillemets, tu jouis de tout ça parce que tu as la notoriété qui te permet de continuer ton aventure, mais le plus compliqué, et ça, c'est faut bien le comprendre, c'est cet amorçage-là, et c'est de la galère, et
Oui,
t'as
c'est
bien fait
ça.
d'en parler.
Ah, c'est ça. Mais c'est pour ça que je veux continuer à être dans l'inconfort, dans cet inconfort-là. Ça me plaît vraiment, tu vois. Quand je pars d'un département pour aller dans un autre département, tu vois, je suis parti de la Nièvre pour arriver ici à Marseille. Entre, je suis passé à Paris, je suis allé à. C'est vrai que j'ai pas mal baroudé en France depuis que je suis rentré. J'ai aussi filmé les. Tu sais, t'as eu une tempête, la tempête Alex. C'était en octobre dernier. Il y a eu pas mal de décès. C'était vraiment une grosse catastrophe dans la région Alpes-Maritimes, dans le 06. Pareil, je suis parti là-bas pour filmer. Je connaissais personne. Et l'inconnu, tu vois. Donc maintenant, je sais à qui envoyer des messages, qui vont me filer des contacts. Et souvent, c'est des bons contacts parce qu'ils me permettent de bien rentrer dans un département. Mais tu vois, quand je suis arrivé par exemple à Nice pour filmer cette tempête, c'était la fin, donc c'était juste la fin des recherches. Donc du coup, c'était pas, il y avait pas, on va dire, il y avait pas l'action et le danger du début. Mais voilà, j'arrive et je suis personne, tu vois. Et en fait, ça me permet d'être toujours dans cet inconfort et d'être dans cette modestie qui fait que dès que j'arrive face aux pompiers, eh ben, je vais pas arriver et dire je suis Vincent Firelife, je fais des vidéos sur YouTube. Non, non, je suis qu'un mec qui peut peut-être vous permettre de témoigner. Et maintenant, c'est comme ça que je vois la chose, tu vois, c'est laisser une trace de votre action, de ce que vous avez fait, parce que ces gars, c'est des héros, clairement. Ils ont fait des choses héroïques et on n'en parle pas. Et moi, je me dis, je vais faire une vidéo sur eux. Je vais filmer le chef, il va raconter ce qu'il a fait. Et avec ses tripes, il a parlé avec ses tripes. Ça, c'est sur YouTube. Moi, je regarde pas mes stats, donc je sais pas combien de vues ça fait. Mais pour moi, c'est ma plus grande fierté, tu vois, c'est de laisser la parole aux pompiers. C'est ça que je vais faire maintenant.
C'est bien. Et du coup, par rapport à tes projets, est-ce que le Covid t'a impacté dans des projets que tu devais faire? Et comment tu t'es adapté? Et du coup, qu'est-ce que tu projettes de faire pour la suite?
Mais en fait, le Covid m'a. Si tu veux, j'étais à Taïwan, donc là-bas, ils n'ont pas été impactés. Si tu veux, il y a eu 7 décès. Donc, c'est pas beaucoup. Il y a quelques cas par jour en ce moment, mais il y a eu 7 décès au total depuis le début. Et quand j'y étais, ils m'ont permis de rester plus longtemps dans leur pays, si tu veux. Et c'était une bonne chose. En gros, toi, tu es un étranger. T'es en visa touriste, bah tu restes à Taïwan plutôt que de prendre l'avion parce que c'est un danger de prendre l'avion, tu vois. Donc c'est cool, j'ai pu rester plus longtemps et je suis resté 6 mois au total. Alors que j'étais déjà parti revenu, hein. Donc au total, j'ai dû presque rester 1 an avec l'Australie entre le Japon et tout, tu vois, j'ai fait des petits voyages internes. Et donc, du coup, je suis resté à Taïwan et j'ai commencé à faire mes vidéos immersion parce que j'ai été bien reçu là-bas. Enfin, j'ai fait l'effort de. Tu sais, je suis allé frapper aux casernes et à force, ça a payé. Et après, je suis rentré en France parce qu'il fallait rentrer en France. Je pouvais aller nulle part ailleurs hein, parce qu'on ne peut plus voyager. Les frontières sont fermées. Donc, moi, étant français, je pouvais faire qu'une seule chose, c'est rentrer en France. Donc, je suis rentré en France et bon, j'étais triste. Je me suis dit, bah, c'est fini, l'aventure. Et finalement, non, au contraire, c'est que le début de l'aventure parce que c'est là que j'ai commencé à faire les vidéos pour les pompiers français. En immersion, avec la confiance, bah, comme tu disais, hein, c'est peut-être les pompiers de Taïwan qui m'ont permis d'avoir cette confiance. Mais maintenant, ils me mettent on va dire, un gilet avec marqué service communication et je pars sur intervention avec les mecs. Enfin, c'est ce que j'ai fait en tout cas dans la Nièvre. Et là, je me suis dit, bah, sans le virus, je vivrais pas cette expérience parce que je serais certainement retourné à Taïwan, tu vois, pour le confort, comme je te disais. Donc au final, non, ça m'a même aidé à rester en France et à faire des vidéos en France, tu vois.
T'as des
Et là, si je suis à
opportunités du coup.
Marseille. Voilà, c'est ça, c'est une opportunité. Tu vois, si je suis à Marseille, normalement, on est en janvier là, on est en janvier 2021. Normalement, je suis censé être en Asie, comme je t'ai dit. Je suis en France l'été et je suis en Asie l'hiver. Là, c'est le premier hiver que je vis depuis 5 ans, tu vois. Donc, du coup, j'ai de la chance. Enfin, ce que je me dis, c'est que c'est une opportunité, tu vois. Donc, moi, le Covid ne m'a pas impacté de. Enfin, si, il m'a impacté, mais en positif parce que, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, je me serais adapté. Je pense que depuis 5 ans, je m'adapte à tout ce qui m'arrive, on me dit oui, on me dit non, je m'adapte, je vais là où on veut de moi, et voilà. Et je le fais en France aussi, tu vois, finalement, donc il n'y a pas de souci. Et puis si les casernes n'étaient pas d'accord pour que je filme, ce qui aurait pu arriver, et j'aurais compris, parce que c'était ça au début, bah j'aurais fait des vidéos comme avant, face caméra, je raconte mes petites aventures, je peux décrypter des interventions, je peux faire plein de contenu sur les pompiers, donc voilà. Sauf que maintenant, je fais des reportages, donc on va dire que c'est ça l'impact du Covid, c'est que maintenant je fais des reportages beaucoup plus quali que ce que je faisais avant.
Donc, parfait, ça t'a permis d'optimiser encore plus tes créations de
Ouais, c'est ça.
contenu.
Ouais, bah oui, c'est ça. Et je suis passé du coup à une vidéo par semaine, ce qui fait qu'une vidéo par semaine, j'ai plus le temps de faire des vrais reportages avec la musique. Je fais la voix off aussi, j'aime bien faire ça. Et ça fait des contenus un peu plus quali. En fait, moi, ce que j'aime dans les vidéos, c'est que c'est un peu. Une façon d'exprimer, tu sais, c'est un art, tu vois. Pour moi, une vidéo, c'est quelque chose qui doit être agréable à regarder, belle, tu vois. Il y a du contenu humoristique, il y a plein de contenu sur YouTube, tu vois. Et moi, ce que je veux faire, c'est que les gens qui connaissent pas le métier de pompier puissent voir quelque chose d'inspirant et que, en partageant l'expérience des pompiers, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait, montrer que c'est un métier assez atypique, quoi.
C'est clair. Il y a une question que je pose à chaque podcast et que tu ne vas pas passer au travers parce que je pense que ta réponse va être très intéressante. Quelle est pour toi ta définition de la liberté?
Alors, pour moi, la définition de la liberté, c'est de faire ce qu'on veut, en fait. Mais pas forcément faire ce qu'on veut comme là, je fais. Là, tu vois, maintenant, je suis auto-entrepreneur, je me lève à l'heure que je veux. Si je veux pas allumer l'ordinateur, je l'allume pas. Si je veux pas travailler, je travaille pas. Si je veux pas faire de vidéo, je fais pas de vidéo. C'est ça ma vie. Là, je fais ce que je veux. Mais c'est pas ce que je veux, faire ce que je veux là que je veux dire. C'est faire ce que je veux. Tu vois, quand j'étais pompier, je me sentais libre parce que je faisais ce que je voulais, tu vois. Alors que j'avais un job assez contraignant, avec des horaires difficiles, tu vois. Pompier de Paris, c'est 3 jours de garde. C'est les rassemblements, toutes les 4 heures, tu as un rassemblement. Tu dois faire 4 heures de sport par jour. Tu as les interventions la nuit. Tu vois, la nuit, ça va sonner à 3 heures du matin. Il va falloir que tu t'habilles, tu partes dans les engins sans réfléchir, tu vois. Pour certains, c'est pas ça la liberté. Mais moi, je me sentais libre à ce moment-là parce que je faisais ce que je voulais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je pense que la bonne définition, c'est un peu comme le bonheur, la bonne définition de la liberté, c'est de faire quelque chose qu'on aime faire au quotidien. Et à ce moment-là, tu es libre, tu vois. Même si c'est un métier difficile, même si c'est un métier avec plein de contraintes, si tu aimes ce que tu fais, bah, tu es libre, tu vois. Et ça ne te dérange pas de te lever à 8 heures du à 8 à 6 heures du matin parce que tu aimes ce que tu fais, tu vois. Donc moi, ma définition de la liberté, c'est ça. Et c'est proche du bonheur parce que pour moi, être heureux, c'est être libre. Donc être libre, c'est faire ce qu'on aime. C'est un peu un petit cercle comme ça que je me suis fait dans ma
C'est un cercle
tête.
vertueux.
Et voilà, en fait, maintenant, je pense que tout ce que je ferai dans la vie, je le ferai parce que j'aime le faire, tu vois. Même si c'est difficile, même si tu vois. Même si c'est compliqué, tu sais, pour certains, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui vont penser que ma vie, c'est pas la liberté, parce que bah, je suis tout le temps un peu dans l'inconfort, en train de prouver aux autres que je peux faire des vidéos, que je peux m'intégrer, que je peux, etc., etc., toujours repartir à zéro. Pour certains, c'est pas ça la liberté. Et pour moi, c'est ma liberté à moi, tu vois. C'est ma liberté à moi parce que je changerais ça pour rien au monde, tu vois. Tu me donnes 20 000 euros par mois, 40 000, tu me donnes de l'argent par mois, même un salaire fixe, bah, je continuerai à faire ce que j'aime, tu vois. Donc, c'est aussi, ça peut aussi être ça, la liberté, c'est même avec, malgré l'argent que tu gagnes, c'est de continuer à faire ce que tu aimes. Enfin, ça doit être ça aussi la
C'est ouais,
liberté, je
peu
pense.
importe ce que tu gagnes, du moment que tu fais ce que t'aimes, quoi. Il y a des personnes qui se sentent plus libres en ayant un petit salaire, mais en kiffant leur vie plutôt que d'avoir un énorme
Ça.
salaire et de se retrouver. Tu sais, il y a un dicton qui dit pour les personnes qui ont des, tu sais, qui font je sais pas combien d'heures par semaine et avec des gros salaires, en fait, ils payent la santé qu'ils vont devoir récupérer plus tard, tu vois. En
Ouais, c'est
fin de
ça.
compte, l'argent qu'ils ont maintenant, ils vont devoir le redonner, entre guillemets, puisque plus tard, ils seront peut-être malades ou ils auront des incapacités, ils auront tellement stressé, tellement de choses, que cet argent-là, au final, il va servir qu'à leur racheter une santé qu'ils se sont détruites par un travail qui ne
Ouais, c'est
leur,
ça.
tu vois. Et du coup, au final, effectivement, la liberté, moi, je te suis là-dessus, c'est peut-être plus de faire quelque chose qu'on aime, peu importe, même si ça représente un inconfort, pour certains, c'est peut-être plus confortable d'être dans un petit inconfort, enfin un petit inconfort, si je
Ouais.
puis dire, plutôt que de se sentir dans un fauteuil alors qu'au final on est dans une prison, tu vois.
Ouais, c'est
Donc
ça. Après, moi, je pense pas que je vivrais. Je pense pas que. Enfin, je pense pas que je vivrais vieux, tu vois, parce que c'est une vie quand même assez stressante. Et voilà, je me dis que le stress, ça peut jouer sur le. Puis mon alimentation n'est pas. Enfin, j'ai une vie quand même assez particulière qui peut-être me portera des préjudices plus tard. Mais je préfère vivre à 100% maintenant et on verra plus tard, tu vois. C'est toujours été on verra. Et voilà. Et il y a une phrase aussi que je trouvais marrante, je l'ai entendue hier, je crois. C'est on n'emporte pas de meubles dans le corbillard. J'ai
mais
trouvé ça
c'est
rigolo.
clair, bien sûr.
Cédric Anicette qui dit tout le temps. Ne pas, je veux pas être le plus riche du cimetière. Et c'est un peu ma philosophie, tu vois. L'argent, c'est juste un moyen de continuer de voyager, de payer mon loyer quand je dois payer un loyer et avoir du meilleur matos. Après, c'est sûr que si je peux me développer, je me développerai. Si je peux déléguer des choses et m'agrandir en entreprise, je le ferai. Ça peut être une belle aventure. Mais je garde toujours cette ligne de conduite. Là, ce que je veux faire dans ma vie, c'est des reportages pour les pompiers. Voilà, c'est
Super.
si simple que ça, quoi.
C'est un bon pitch.
Et
Où est-ce qu'on peut suivre
ça, je peux le
tes...
faire.
Vas-y, vas-y.
Pardon. Et ça, ce que je disais, c'est que je peux le faire partout dans le monde. C'est ce qu'on disait au début. C'est je peux le faire partout dans le monde. Il y a des pompiers partout.
Ouais, c'est clair. Non, mais c'est un super projet. Moi, j'adore l'idée. C'est top. Et en plus de ça, je pense qu'il y a tellement d'endroits où... Là, j'ai hâte que tu ailles en Afrique ou dans des endroits un peu plus reculés avec beaucoup moins de moyens et voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Je pense que ça va être top,
Ouais.
quoi. Ça va être
Après,
top.
il faut que les frontières réouvrent.
Voilà,
Ça,
c'est
c'est
ça.
compliqué. Et après, mais c'est vrai que je reçois beaucoup de messages. Quand est-ce que tu pars à New York? Et là, tu me dis, quand est-ce que je pars en Afrique? Tu vois, dans ma tête, je me dis, est-ce que j'aurai assez d'une vie pour tout faire?
Ou même
Parce
l'Amérique du
que
Sud. L'Amérique du Sud, en temps de
même
Covid, c'est
l'Amérique du
assez
Sud.
ouvert.
Ouais, aussi, tu pourrais.
Tu pourrais, tu vois.
Mais là, tu vois,
Après, il y a la
j'arrive à
barrière de la
Marseille.
langue. Il y a la barrière de la langue.
Ouais, c'est ça. Mais tu vois, là, j'arrive à Marseille, une ville que je connais pas, des
Ouais, c'est
pompiers que je
clair.
connais pas, hein, une
C'est clair.
structure. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est que où que je sois, je m'éclate, en fait. Où que je
C'est
sois,
le
je vais
principe.
m'éclater.
Bah ça se voit, en tout cas ça se ressent. Est-ce que tu peux nous donner les différents réseaux, chaînes YouTube, etc., où on peut suivre toutes tes aventures, même les titres de tes livres? De toute façon, je mettrai tout dans la description du podcast.
Bah, mon livre s'appelle L'incendie de ma vie. Donc, ça, c'est un livre qu'on peut trouver uniquement sur Amazon. Je me suis auto-édité. Donc, je suis content parce qu'il y a pas mal de commentaires. Enfin, c'est cool, Amazon, j'aime bien KDP. Bah, je pense que toi, tu bosses un peu aussi. Tu fais des livres aussi, ce que j'ai compris. Et je trouve que c'est intéressant de partager des trucs en papier ou en Kindle, mais en format numérique. Mais j'aime bien le format papier. Et je l'ai aussi fait en livre audio, donc ça s'appelle aussi L'incendie de ma vie. Il est trouvable sur Kobo, donc l'avantage de Kobo, c'est le premier livre est gratuit, donc si vous voulez l'écouter, vous pouvez l'avoir gratuitement là. Il n'est pas sur Audible, parce que c'est compliqué d'être sur Audible quand tu es auto-édité. Mais en tout cas, voilà, il dure 12h30 et voilà, j'ai la petite musique qui va bien avec, qui a été composée pour le livre, et c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir fait ça. Et ensuite, ma chaîne YouTube, ça s'appelle Vincent Firelife. Donc voilà, Vincent, pompier, vie de feu. Et Vincent Firelife, voilà, je fais une vidéo par semaine, tous les mercredis, et je m'amuse. Voilà. Après, je ne sais pas si ça va intéresser ta communauté, mais j'essaie de rendre la chose ludique et intéressante pour les gens qui ne connaissent pas ce milieu-là.
Mais ça se voit, on voit que tu maîtrises bien tous les codes en plus des réseaux sociaux pour que ta communauté reste active. On voit qu'en plus de ça, ta communauté répond très bien. Enfin, tu sens que c'est une communauté
très
soudée, tu vois. Ouais, ouais, très bienveillante, c'est le terme. Je pense que c'est ça. Et c'est assez rare puisque, en général, quand on atteint un certain niveau de notoriété et qu'on a assez de visibilité, on attire forcément des personnes qui sont beaucoup moins bienveillantes.
Oui.
Et en fait, toi, ça se ressent pas, en tout cas. Et on voit qu'il y a au contraire beaucoup de fidélisation derrière et qu'il y a des personnes qui aiment tes aventures, qui les suivent et qui, voilà, qui les découvrent et qui sont contents de les découvrir. Enfin, franchement, moi, je vous invite vraiment à suivre tes aventures, suivre les aventures de Vincent. Si ça vous intéresse un minimum, regardez ce qu'il fait sur sa chaîne ou sur son compte Insta, vous allez voir que c'est bien fait. Donc en tout cas voilà, moi je voulais te remercier pour tout. T'as été voilà, tu t'es pas mal livré, ça a été très très intéressant, très inspirant et très enrichissant. Donc
merci
pour tout
toi.
Ça, je te remercie vraiment encore une fois du temps que tu m'as accordé. Et puis je suis pressé de continuer de suivre tes aventures sur les différents projets que t'es en train d'amorcer maintenant.
Bah merci à toi de m'avoir laissé parler, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal de taf, hein, ce que tu fais, c'est produire du podcast, c'est pas un travail facile, il faut trouver les gars, il faut trouver des gars interviewés. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite, j'espère que tu vas interviewer plein de personnes qui vont inspirer ta communauté et nous inspirer, parce que je pense que tu dois t'enrichir de ça aussi, rencontrer des gens, c'est
Exactement.
super. C'est
Exact.
un beau voyage que tu fais, parce que finalement tu rencontres plein de gens qui racontent leur histoire. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière on discute un peu avant, un peu après. Donc on partage des trucs et puis après on se tient au courant. Je pense
Ben ouais.
on va continuer à s'écrire et ça c'est top, tu vois. Pour toi, tu fais plein de rencontres et je pense que ça fait rêver pas mal de gens et ça peut donner des idées, ça peut motiver. Et ça c'est important, parce que moi je suis persuadé qu'on est sur Terre pour quelque chose, tu vois. Et des fois, il faut créer la différence. Et la différence, tu l'as fait à travers un podcast avec plein de bonnes personnes que tu as interviewées au passé. C'est cool, quoi.
Bah écoute, je te remercie et bah effectivement, on reste en contact dans tous les cas, puisque ton aventure, moi, m'intéresse fortement et il y a certainement un des moments où je vais venir te titiller un peu avec deux trois questions ou peut-être même plus tard, sait-on jamais, un podcast 2 ensemble où on va faire un épisode
ouais, avec
peut-être à une. Bon, en tout cas, je te remercie. Je te
Merci
souhaite plein de bonnes choses et puis peut-être
aussi
un de ces quatre pour un prochain épisode.
Ça marche. À bientôt, Bastien, et merci pour tout.
Et c'est ainsi que se termine ce 14e épisode de Courant Libre. J'espère que l'histoire de Vincent vous aura inspiré et aura pu vous montrer que dans la vie, on peut faire des choix de carrière, changer, revenir, avoir des objectifs et s'y atteler, avoir des moments très bas comme a pu le vivre Vincent avec sa période de dépression, et qu'on peut remonter la pente et vivre des aventures exceptionnelles. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à suivre ce podcast. Je vous dis à dans un mois. Ciao.